Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, présenté par l'âme UA.
Bonsoir tout le monde et bonsoir la gaieté d'Éric. Ça va bien le public ou pas? Oui. Bon, je suis obligé de faire comme dans les foires et dire « Ah, je vous entends pas ». Est-ce que ça va bien la gaieté d'Éric? Incroyable, incroyable. La folie ici, c'est le Brésil avant l'heure. C'est la dernière de Studio 404, de 404 et vous de la saison, évidemment, puisque vu le succès d'Audimatch et Médiamétrie énorme, on sera sûrement de retour pour une deuxième saison. Donc voilà, fin de la saison, on retrousse les manches, on se laisse pousser la moustache, on est à la cool. Et on va faire donc une dernière émission tous ensemble avec un invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais évidemment avec mes quatre chroniqueurs, les inséparables, même si des fois ils se détestent, ils vont se séparer, mais ils sont toujours là. Déjà, applaudissements pour Daz, ça va?
Ça va très bien, merci. Merci, 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 merci. Merci. Je ne sais pas si le micro fonctionne, comme d'habitude.
Si, mais je crois qu'en fait, on a baissé...
Le micro, tu ne l'as pas allumé, peut-être.
Grâce à notre régie. Ça... Ah, et... si. Ça va très bien, merci.
Ok. À côté de toi, Sylvain. Bonsoir, Sylvain. Applaudissements.
Bonsoir. C'est un super micro de foire, moi aussi.
Sylvain, on sent que tu es revenu d'une petite conférence de start-upper parce que tu as un t-shirt spécial, comme les mecs qui cherchent du financement pour leur start-up.
Figure-toi que c'est un cadeau d'anniversaire.
C'est un cadeau d'anniversaire. Très bien, très bien. À côté de toi et en face de toi, séparée de ses lieutenantes habituelles, mais elle n'a pas peur, elle est là. C'est Mélissa Bounou, applaudissements.
Ouh, on s'applaudit maintenant.
Ah, ton micro.
On s'applaudit maintenant.
Oui, parce que enfin, je trouve qu'il y a pas.
Applaudir,
il y a pas assez de team building, tu vois, il y a pas assez de.
Vous voilà. Êtes gentils, les gens.
Il faut qu'on s'aime très fort.
Obéir à l'âme.
Oui. Et à côté de toi, bien sûr, notre ami Fibre Tigre.
Bonjour.
Fibre, par contre, toi, pas de t-shirt promo, rien ce soir, la sobriété, pas de prosélytisme, rien.
Oui, c'est bon, j'ai tout vendu.
Ah, rupture de stock de jeux en
il
téléchargement.
A un badge, c'est... Il a un badge, mais je sais pas si c'est...
Oui, mais les gamers reconnaîtront et voilà, c'est les private jokes de gamers.
Très bien, très bien. Et en tout cas, pour nous accompagner ce soir, il a fait le plaisir de venir se confronter à nous, se débattre avec nous et parfois se mettre en danger. Monsieur 2020, applaudissements. Comment ça va, 2020?
Génial.
T'as vu, c'est quand même mieux foutu que la TEDx Paris ici, je trouve, quand même.
Ah ouais, d'entrée, tac. Ouais, c'est très sympa, tout le monde s'applaudit comme à la télé, en fait.
On s'aime beaucoup, c'est l'Internet 2.0, si tu t'aimes pas, tu peux pas survivre.
C'est très bien.
Allez, en tout cas, ce soir, on va commencer tous les deux tout de suite, parce qu'on va devoir choisir un sujet, en fait. La formule de ce soir, puisqu'on l'a encore changée, ce soir, 2020 va choisir pour trois chroniqueurs un sujet global qu'ils vont devoir traiter. Ils vont devoir le traiter ensemble, séparément. Ce sera à eux de voir comment ils vont s'y prendre. Et pendant qu'ils seront partis travailler, le quatrième chroniqueur va venir avec une chronique qu'il a lui déjà préparée, qui est adressée à notre invité à 2020. Et c'est Sylvain qui restera avec nous. Sylvain, notre caution génération Y.
Et pourquoi tu fais ce bordel? Pourquoi tu fais ça?
Parce qu'on s'est dit, c'est le moment de pouvoir expérimenter en temps réel et avec des gens. Et donc voilà. Donc on change la formule à chaque fois.
J'adore.
Je pense qu'un jour on arrivera à court de concept, mais en tout cas, là, on va changer la formule.
Vas-y.
En tout cas, 2020, il va falloir qu'on choisisse deux sujets qu'on va confier à Fibre, Mélissa et Daz. Le tout premier sujet, c'est je lance des projets dont je suis. Et on va parler du phénomène...
C'est toujours foireux, tes intitulés.
Sur Internet, du fait que tout le monde lance des petits side projects à chaque fois, que ce soit des gros startups ou des petits comptes, des seconds comptes Internet ou des sortes de collectifs, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde lance son petit projet, sa petite marque, quelque chose dans tous les sens, et qu'il faut presque en lancer un pour exister. Fibre est tout à fait d'accord, mais il en parlera tout à l'heure. Et voilà, donc là, un peu l'obsession de lancer le projet cool en plus de sa vie. Le deuxième sujet... qui va te parler aussi, je pense, On va parler de télévision, puisque tu as quand même pas mal travaillé ces derniers temps. Et on va parler des histoires d'amour tourmentées, voire impossibles, entre la télévision et Internet. Est-ce qu'à un moment, en tant que spectateur, en tant qu'auteur, en tant qu'animateur ou chroniqueur, on peut trouver un terrain d'entente où la télévision parlera d'Internet sans dire qu'est-ce qui a buzzé aujourd'hui sur Internet et pour proposer un best-of de vidéos? Alors, entre les deux sujets, entre la folie de le projet de lancer des projets et la télé qui n'arrive pas à aimer Internet, qu'est-ce que tu veux que Mélissa, Fibre et Daez traitent?
Bah, sans surprise, la télé.
Voilà. Ah. La télé.
Ah. Yeah.
Ça va, vous êtes content? Vous êtes rassuré?
On est chaud.
Grave.
Bon, c'est moi, cool. En tant que faillot, j'avais tout préparé.
Comme toujours.
Pour changer. Ouais.
Ok, et bah, écoutez, c'est le moment où vous allez partir du coup.
Adieu.
Allez, vous allez laisser les petits micros, vous allez partir travailler dessus. S'il y a des membres du public qui sont motivés pour travailler, pour apporter leur point de vue à Fibre, à Mélissa ou à Daz, vous pouvez les suivre. Ils vont aller s'installer juste là-bas. Et tu vois, là, ils ont un quart d'heure pour travailler dessus.
T'imagines, tout le monde se barre.
Non, regardez, les gens, ils restent parce qu'ils sont, hypnotisés. Donc voilà. Fibre, Daz et Mélissa qui sont partis travailler sur le côté, discrètement.
Et je me retrouve tout seul sans défense.
Et non, parce que tu vas attaquer.
Je vais attaquer un petit peu.
Et on se retrouve avec Sylvain. Gentil.
Très bien.
Alors je te présente un petit peu Sylvain, assez rapidement. Sylvain est un travaille dans la communication et la publicité le jour, et est un trublion d'Internet la nuit. Il aime bien sévir sur différents réseaux, entre autres Twitter, bien sûr. Pinterest aussi un petit peu. Hein.
Ah, j'adore Pinterest.
T'es un peu dans le game Pinterest.
Ouais, ouais.
C'est le côté femme, attention, femme mature.
Attention avec le genreisme.
et en face de toi, bah, Sylvain, je te présente 20-20 du coup. 20-20, pareil, multitalent. Tu me dis, tu m'arrêtes si je me trompe.
Multitalent, déjà, t'imagines.
Troubleur.
Diabolo, il fait le barbier.
Bâton du diable, bolas. Voilà.
Je me présente ou il me présente ou tu me présentes?
Non, vas-y, présente-toi du coup.
Ah non, c'est
il y a des gens qui te connaissent pas.
Ah bah carrément tout le monde, je pense.
Mais non.
Je suis auteur de métier et il se trouve que j'ai été dire mes textes un peu partout, sur Internet, à la télé et aujourd'hui sur scène, au théâtre. Et je produis du contenu pour Internet et pour la télé. Voilà, j'ai résumé en une phrase. Après, d'accord, ça fait 10 ans que je suis sur Internet, mais comme tout le monde.
Avec différents projets.
Avec plein de projets, c'est pour ça. Le premier sujet, je me suis dit, je vais devoir défiler ma vie, ça va être ridicule. Donc,
je vais le faire pour toi, t'inquiète.
D'accord.
Et donc, s'il y a des gens du public qui veulent venir participer dans cette première partie, je sais, il y en a un qui se prête très bien au jeu, qui est arrivé dans le public, tu peux venir nous rejoindre. Mais s'il y a des gens qui veulent effectivement poser des questions ou intervenir dans le public, on va laisser Sylvain prendre la parole. Et on a Grégory Pouy qui nous rejoint. T'es venu par hasard, on t'a pas invité.
T'as un micro,
hein,
qui marche.
Je suis venu par hasard.
Grégory, je pense qu'il a été très vexé que je t'invite toi et pas lui.
Bah ouais, je comprends. Ça fait 10 ans qu'il me suit dans les salles.
Allez, en tout cas, on pleure plus de temps. Et du coup, on revient à Sylvain. Sylvain, de quoi tu veux parler à 20-20?
Eh ben écoute, je vais te parler de souvenirs. Je vais te parler de ma jeunesse sur Internet. Je vais te parler de mon réveil 2.0, entre guillemets, puisqu'il est en rapport avec les réseaux sociaux. Je vais te parler de l'année 2008, l'année où moi j'ai découvert Twitter, puis Facebook. J'ai eu une sorte d'épiphanie où je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement ce qu'on appelle une économie numérique. Il y avait quelque chose sur Internet. Tous ces gens qui prenaient la parole sur les réseaux via leur blog, via leur vlog.
Ça se dit encore.
Ouais, on appelait ça comme ça à l'époque, hein, les blogs vidéo. Et sur les réseaux, ils existaient bel et bien, ces gens-là. Ils se connectaient entre eux, ils se retrouvaient à des événements. Alors moi, j'ai eu un petit peu l'impression de soulever un gros caillou et de trouver des fourmis dessous. Spéciale dédicace au livre de la jungle. Alors, il s'appelait Éric Dupin, il s'appelait Loïc Lemeur, il s'appelait Emery Doliger, il s'appelait Henri Kaufmann, Nicolas Chenu, Corben, ou même Monsieur Lame, ou même Grégory Pouy. Et ils avaient des blogs au design un petit peu pourri. Lame, je te rappelle que tu as trimballé quand même une bannière One Piece jusqu'en 2010, hein, quelque chose comme ça. C'est quand même intéressant. Et ils lançaient chaque semaine, ces gens-là, un nouveau concept de podcast, ou une nouvelle start-up, ou un nouveau projet, etc. Le tout toujours filmé à la caméra DV, hein, puisqu'on était en 2008, on n'avait pas trop de caméra numérique encore. Et puis, donc comme je disais, j'ai découvert les réseaux sociaux, et j'ai découvert que ces gens parlaient entre eux, j'ai découvert qu'ils se connaissaient, qu'ils allaient boire des verres ensemble, ils faisaient des collaborations, des partenariats. Hein. Pour rappel, en 2009, deux petits comiques qui s'appelaient le Velcro, qui était composé d'un certain Hugo et d'un certain Norman, on fait un caméo dans un épisode de Monsieur Dream, qui lui maintenant s'appelle Cyprien. Donc c'était l'époque de tous les possibles. l'époque de l'amateurisme. Les provinciaux montaient à Paris pour participer à l'EWeb ou Web Connect. Il y avait des choses en province aussi, comme la ferme du web à Lyon, et j'imagine qu'il y avait, il devait y avoir tout un tas d'autres événements dans d'autres villes. Et moi, à cette époque-là, et moi, j'avais qu'une envie. Moi, je voulais une réponse dans un commentaire. Je voulais une reply sur Twitter, je voulais une demande d'amis acceptée sur Facebook. Je voulais faire partie de ça, d'émerger dans cet écosystème, et peut-être un jour, qui sait, serrer la main de l'un de vous, de un de ces hommes ou femmes qui faisaient le web français.
Des héros, quoi.
Voilà, c'était un petit peu... J'avais une admiration pour ces gens-là qui faisaient le web français. Mais j'étais un adolescent du web à cette époque-là. Plus tard, j'ai mûri. J'ai lentement tué les pères fondateurs. J'ai fait mon petit Oedipe du web numérique. Je me suis rendu compte que non, Loïc, Sismic, c'est pas un projet viable. Non, Eric, pourrir Presse Citron en mettant des articles sponso dans tous les sens, ce n'est pas devenir blogueur professionnel. Non, Emery, tu ne susurres pas à l'oreille des puissants. Et non, Cyril, tu ne révolutionnes pas la télévision avec une GoPro sur la tête.
On en parlera tout à l'heure.
Fallait que je la place. Donc j'ai commencé à construire mon propre réseau, moi aussi, avec des gens comme moi, pas forcément de mon âge, mais qui avaient aussi mûri par rapport à tout ça, qui sont sûrement passés du statut de wannabe à celui de critique, voire à celui de hater. C'est l'époque des lol-toshop, des tweets clash, des trolls tellement second degré que la personne en face de toi croit que tu la complimentes. On s'est créé notre propre caste et vous n'étiez pas dedans. Vous ne la compreniez pas, elle se définissait par votre absence.
C'est dur.
Ouais, c'est dur. Alors, est-ce que c'est vraiment moi qui ai mûri ou est-ce que c'est vous qui êtes devenu has-been ? Est-ce que c'est vous qui avez cessé de me faire rêver ? Ou est-ce que c'est même vous qui avez cessé de rêver dans vos propres projets ? Et plus important encore, est-ce que le cycle des générations qui se suivent et se poursuivent s'applique à Internet ? Est-ce que les vieux sont gentiment raccompagnés vers la sortie pour laisser la place à la génération suivante ? Est-ce que je suis devenu cool au moment où j'ai considéré que tu ne l'étais plus ? Et finalement, est-ce qu'Internet c'est un truc de jeune ? Est-ce que moi, dans 5 ans, je vais être vieux ? Est-ce que les ados de Twitter, qu'on appelle le Twitter des ados, est-ce qu'ils vont me remplacer ? Est-ce qu'ils vont me foutre à la porte, moi aussi ? Finalement, est-ce qu'on est tous le vieux con de quelqu'un d'autre ?
Ah ah !
Ouais, ça, je pense.
Sympa ce petit accueil dans chez 404, hein, t'as vu ?
C'est merci, hyper Sylvain, sympa, bonne ambiance, hein, on est bien reçus.
Alors Sylvain, là, il nous parle de génération. On avait un peu l'illusion qu'il n'y avait plus de génération, plus de sexe, plus de race avec Internet. C'était un peu l'utopie du fait que derrière nos écrans, on n'était plus rien d'autre que nos propos. Et on s'est rendu compte que finalement, il y a eu quand même pas mal de clash. Les gens étaient vachement classés selon des styles de vie, des professions, des castes, des âges, des choses comme ça. Est-ce que tu l'as vécu, toi ?
Bah non. Je suis désolé pour toi, Sylvain, mais je vois très bien ce que tu veux dire, mais moi, je me suis toujours mis à part de ça. Donc... je me suis jamais senti dans une caste de blogueurs privilégiés de rien. On était 12, quoi. On était 12 blogueurs
justement,
en 2004.
Justement. Ah, donc c'est une
mais
caste.
Non, c'est pas une caste, c'est une bande. On était moins que ça. Donc effectivement, on se voyait le soir, on était là. Et dès qu'il y avait un article dans la presse, ils venaient nous chercher. C'était les blogueurs. Et donc on les retrouvait. Il y avait Grégory. On était 15. Et les noms que tu as cités sont pas des super-héros. C'est juste on a ouvert des blogs. Et après, il y a eu tout le monde qui est arrivé. Et comme tu l'as dit au début, tu voulais un commentaire. Mais moi aussi, moi, quand j'ai eu mon premier commentaire de Loïc Lemeur, mais... wow, il m'a mis blog de la semaine pendant 3 mois parce qu'il est parti, il a changé de blog. Du coup, j'avais 50 000 connexions heure, alors même si j'écrivais rien. On est tous pareils, quoi. Et alors après, les générations de mecs qui arrivent pour nous clasher, je les ai pas vus, moi. Quand on me clash, je réponds pas, j'y vais pas, ça me saoule. Enfin, les trolls. Enfin, on a tellement pas de temps à perdre. Je suis jamais rentré dedans et je me pose même pas la question si je suis has-been. Je vais te dire un truc has-been. J'ai 2 enfants de 12 et 10. Ça, c'est méchamment has-been. Si je commence à me dire, putain, faut pas que je leur parle d'Internet, ils vont me regarder avec l'œil du has-been, je suis mort. En revanche, je leur explique les dangers de Snapchat, je fais gaffe sur l'ordinateur, et là, ils me regardent et je suis pas has-been dans leurs yeux. Donc ça, voilà. Qu'est-ce qu'has-been? Je pense qu'il y a plus de has-been, il y a plus d'âge, quoi. Le mec, il m'attaque sur mon âge sur Internet. Je réponds même pas, quoi.
Justement, c'est intéressant. Parce que l'âge sur Internet, c'est pas exactement, l'âge que t'as, c'est pas ton âge civil en fait, l'âge sur Internet. C'est le nombre de temps que t'as passé sur les réseaux et le nombre
pas.
De contenu que t'as produit, etc. Comme
mais
un
non.
lien qui est old parce que tout le monde l'a trop vu.
C'est pas je vraiment, crois pas. Non, c'est intéressant, pas. Mais j'aurais plus de légitimité sur Internet parce que j'ai fait 500 vidéos ou 3000 sur Sismic dont tu parlais. Non, je crois pas, non. Le mec qui arrive, tu vois, par exemple. Bonjour Tristesse, tu vois qui c'est ?
Ouais.
C'est, alors pour, le mec, il a 3 mois, quoi.
Ouais. Pour récitiver un peu, Bonjour Tristesse, c'est un des youtubeurs, on peut les appeler comme ça maintenant, parce qu'on dit plus des vlogueurs. qui poste des chroniques où il parle non-stop en hurlant quasiment et ouais. Il cartonne un peu depuis 3 mois.
Ouais, le mec il est arrivé il y a 3 mois en plan séquence avec sa petite caméra DV et il a une colère incroyablement saine, il a 27 ans. Si je commence à me dire, écoute, oui, moi aussi, je m'exprimais sur une caméra il y a 10 ans, ce petit con m'emmerde avec son... Non, mais c'est du génie. Il a aucun track record, comme on dit, dans Internet. Mais viens, mon gars. Et la preuve, c'est qu'hier, il était dans nos locaux parce qu'on a tourné un truc avec lui, parce qu'on le kiffe. Et je veux dire qu'on n'a pas d'âge. Enfin, non, justement, l'Internet, c'est le truc sans âge. Donc les gars qui viennent...
Toi, tu défends cette théorie, toi.
Ah, bah, je défends pas de théorie, déjà. J'ai autre chose à faire. Mais ouais, il y a des vieux super cool. Regarde Jean-Michel Billot, quoi. Il a 70 ans, il lui manque une jambe. Mais chaque truc qu'il écrit, bon, vous le connaissez pas, bah c'est intéressant. Il y a des ados, non, je déconne. Il y a des jeunes qui écrivent des. Attends, je rigole. Non, mais tu vois mon premier site internet, ce site qui est un peu trash. Tu vois qui c'est ou pas? Vous voyez ce site?
Ton premier site, c'était non,
avec un site qui s'appelle Mon premier site internet.
Ah d'accord.
Les mecs, ils ont 18, 19, 20 ans. C'est du trash. J'oserais pas le faire, mais c'est cool. Ils ont 20 ans. Bon, moi, je m'en fous. Enfin, je regarde pas l'âge de l'URL, quoi.
Ouais, bien oh, sûr.
C'est beau, ça.
Et qu'est-ce que tu penses des gens qui, comme dit Sylvain, sont encore la nouvelle génération, qui sont en train de pousser en disant « Norman, c'est ringard, Cyprien, c'est ringard, et il y a toujours des nouveaux. » Et qu'en fait, on est dans une sorte de vague non-stop, un peu comme on rachète des téléphones portables tous les ans, de nouveautés tout le temps.
Ouais, mais ça, c'est pas l'Internet.
Dans le contenu.
C'est comme dans la télé, dans le ciné, dans la musique, dans tout. Tout le monde arrive. C'est vrai que Cyprien... Alors ça fait ringard, mais quand j'ai rencontré, il avait 17 ans.
D'ailleurs, les films vidéo, il voulait rencontrer Loïc Lemaire, non?
Ouais, il voulait rencontrer Loïc Lemaire. Maintenant, il a 4 millions d'abonnés. Mais c'est très bien. Mais maintenant, ils ont la vie de leur âge. C'est pas ringard. Moi, Norman, je suis allé le voir jouer là dans un petit café-théâtre. Le mec est courageux quand même. Il pourrait continuer à se faire sa petite carrière sur Internet, se prendre ses 3000 euros de pub, plus tous les contrats qu'il fait avec ses agents et tout. Il sort de l'Internet, il va se mettre en danger en se faisant un one-man show. Il est dans un petit café à Paris, là, le Paname Café, où il fait un quart d'heure. Je l'ai vu au tout début, c'est pour le moment, on voit qu'il se chauffe, mais il y va, il met ses tripes. Donc que les mecs qui ont 5 ans de moins arrivent derrière en disant il est dans les ringards, vas-y. Non. Mais j'adore, c'est une espèce de rouleau compresseur qui est en fait 100 fois plus rapide que la vie réelle. C'est-à-dire que maintenant, ringard en 5 ans, mais non, ringard aux yeux de celui qui a 18 ans par rapport à celui de 23. Donc imagine-moi, je suis Drucker, quoi.
C'est exactement où je voulais en venir.
Ah. Sauf que... Ouais, mais ça me va bien, tu vois, on est un paquet quand même.
Sauf que Drucker, c'est le mec qui a passé le truc qui est lui en temporel.
Il est immortel, ouais.
Mais on est tous immortels, c'est ça qui est cool.
Greg, toi, t'as vu passer tout ça?
Ouais. Alors, j'ai vu passer tout ça aussi.
Toi, parce que t'es là depuis longtemps. Ouais. T'es encore pertinent aujourd'hui ou pas?
Oui. Lui pense que non. Clairement. Moi je suis assez d'accord avec Cyril, c'est-à-dire que
toi, juste pour te restituer, Greg, tu...
Moi j'ai un blog marketing, moi j'ai jamais d'accord. essayé d'être cool, enfin c'est du market, j'ai une chemise blanche quoi.
D'accord.
C'est pas très très cool, donc j'ai jamais vraiment essayé d'être cool, c'est pas ma posture. Après je pense que c'est plus des questions, je suis assez d'accord avec Cyril, c'est pas des questions d'être cool ou pas cool, c'est des questions de génération, c'est clair que clairement on n'est pas dans la même catégorie quoi. Enfin moi j'ai jamais clashé qui que ce soit, j'ai jamais essayé de faire chier qui que ce soit sur Internet. C'est pas mon truc. Moi je fais du market, donc ça n'a rien
pensez,
à voir.
Est-ce que vous pensez un peu mener représenter le web comme avant ou un peu moins du coup? Parce que comme dit 2020 une époque, et comme disait aussi Sylvain,
vous
à un moment
tous.
Vous étiez les référents et les héros du net, ouais. Les 12 salopards. Ils étaient là, quoi.
Alors ouais, mais en fait, c'était
héros de mettre ton costume.
En fait, le truc, c'est que quand t'ouvrais un blog en 2004 ou en 2005, t'ouvrais un blog juste parce que t'as envie de partager avec les autres. Il n'y avait pas de notion de marque, de pub. Il n'y avait rien, quoi, en fait. C'était juste... Mais comme toi, en fait, t'ouvrais un blog juste pour partager des trucs avec des gens et puis discuter et puis effectivement rencontrer des gens dans la vraie vie. Et c'est pour ça que tu le faisais. Après, il y a eu des gens qui ont ouvert leur blog pour avoir des cadeaux. Il y a eu des gens qui ont ouvert leur blog pour avoir de la fame, etc. Mais nous, on n'était pas dans cette démarche à l'origine. C'était pas le truc. Alors après, moi, je crois pas du tout au fait que t'es plus célèbre parce que t'es plus vieux ou quoi. Effectivement, il y a plein de gens qui émergent. Même si on regarde sur Vine, les mecs, Vine, ça a un an. Il y a des mecs qui ont 5-6 millions de followers. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais il y a des gens qui les suivent, quoi, ces gens-là. Donc, voilà, c'est pas une question d'ancienneté, vraiment. C'est plus une question de ce que tu fais, ce que tu fais pas.
Ouais. Est-ce que ça peut être aussi une question d'activité? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, à un moment, on est les rois d'un média, il y en a un autre qui arrive, puis à un moment on se dit, bon, alors celui-là c'est plus pour moi, je vais pas non plus essayer de me reconstruire sur Instagram, puis Pinterest,
mais
ou Vine, ou Facebook.
À la seconde où tu penses que t'es le roi d'un média, t'es mort. Surtout Internet. Je suis le roi d'Internet. Mais t'es fou. Mais Mais ce qui m'étonne, c'est ce que tu as dit sur les quatre noms que tu as cités. Si on les reprend un par un, j'aimerais que tu m'expliques ton problème. Vas-y.
Non, mais j'ai aucun problème. C'était pour.
Pourquoi tu dis ça? T'es fou,
quoi. Non, mais c'était pour un petit peu pour l'effet d'annonce. Mais je considère quand même, effectivement, que à un moment donné, vous étiez, comme tu dis, 12. Je considère, en fait, on va dire, l'historique du web des années 2005 jusqu'à de nos jours comme une pyramide. C'est-à-dire qu'au tout début, il y avait effectivement 12 mecs qui régnaient un petit peu. Qui représentait un petit peu le web français, etc. La pyramide s'est écartée au fur et à mesure que des gens ont créé leur blog et surtout des gens ont commencé à passer du temps sur les réseaux sociaux parce que c'était pas les mêmes audiences que vous faisiez il y a 5 ans que vous faites maintenant, tous. Et donc effectivement, avec cette masse critique...
Tu veux dire qu'on en fait moins ?
Non, que vous en faites plus parce qu'il y a plus de monde qui se connecte tous les jours sur Internet, je pense. Mais en même temps,
par exemple,
en parallèle, il y a plus de blogs aussi qui se sont développés.
En 2006, je sais pas si... Mais je faisais un show vidéo... J'étais pas né à America, maintenant.
Pour lequel tu t'es fait connaître, tu t'as fait connaître sur Internet.
Il n'y avait pas encore Dailymotion, quoi. C'était un PowerPoint Dailymotion. Et YouTube, c'était le début. Et comme j'étais tout seul, en fait, je faisais 100 000 vues sur un player propriétaire. Aujourd'hui, si je fais une vidéo, je fais 2000, 3000 vues sur Internet, je parle. Parce qu'il y a tellement de monde, je fais pas plus de vues qu'avant. Enfin, c'est juste pour ta pyramide, là,
Non mais en fait il y a plus de monde sur Internet,
plus de diffuseurs,
mais il y a aussi plus de monde
qui produit,
qui s'autopublie, dans l'autopublication. Et en fait le problème que j'ai, c'est que vous avez été pendant très longtemps parole d'évangile pour beaucoup de gens, et je sais pas, du jour au lendemain on a l'impression de plus vous avoir vu du tout, de vous être fait bouffer par les générations qui arrivaient après. Moi j'ai eu ce sentiment, et c'est peut-être pour ça que tu fais maintenant 2000 vues au lieu de 100 000.
Non, c'est que j'ai fait beaucoup de ça, puis après, moi, j'ai une vie aussi, comme tout le monde, donc tu peux pas faire le con sur Internet tous les jours pour rien, quoi. Donc moi, j'ai monté une boîte de prod, je publiais moins sur mon blog, j'ai même arrêté de bloguer.
Tu publiais beaucoup parce que t'étais plus jeune ?
Il y avait la curiosité, j'avais déjà des enfants, mais il y avait la curiosité de la nouveauté. C'était le début du blog, donc c'est la conquête de l'Ouest, quoi. C'est vraiment, on était des cow-boys, comme tu dis, mais en revanche, parole d'évangile, moi, j'ai jamais pensé avoir une parole d'évangile, c'est bon. Mais et ensuite j'ai monté une boîte, et puis de ce show qui m'a fait connaître sur Internet, j'ai fait autre chose ailleurs, en télé et ailleurs. Du coup, ouais, moins sur le net. Et puis à ce moment-là sont arrivés des mecs qui utilisaient mieux que moi le média. Mais allez-y, quoi. Quand j'ai vu les premières vidéos de Normal et où Cyprien, quand il s'est remis à faire le truc, ouais, c'était monté, c'était cut, c'était propre. Il y avait un ton de leur âge et tout. Si je faisais la même chose derrière ou avant, j'étais cuit. J'avais pas raconté mes histoires d'acné, quoi.
Justement, t'as pas eu le sentiment de perdre un petit peu l'excitation des aventures d'Internet, de non, monter un
après,
projet avec trois bouts de ficelle.
Peut-être d'autres à ma place le diraient, mais moi, je vis pas comme ça. Voilà. Moi, je te jure, je fais le jour et puis le lendemain. Et je kiffe comme ça. Donc, j'ai aucune, ni jalousie, ni perdu d'excitation. Je trouve ça hyper excitant, l'Internet d'aujourd'hui, quoi. J'étais très content qu'il m'appelle. Ça fait 5 ans que je regarde ce qu'il fait dans son coin. Et pourtant, on est dans des bandes. Non, mais on est dans des bandes super lointaines. Parce qu'effectivement, moi, je suis espèce de la vieille bande, voilà.
Donc il y a comme une vieille bande.
Ouais, mais il y a des bandes partout, mais il y a plein de bandes. Mais il y a des bandes de la BD, il y a les blogueuses mode, il y a des geeks ultra geeks, en fait, il y a 10 millions de petites bandes. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de parole d'évangile, mais il y a un gong.
Ouais. Et là, c'est l'autorité céleste du réalisateur qui dit, hey, on a
trop
fini le débat. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sylvain, on peut l'applaudir.
Merci.
Merci, Greg, d'être venu. Tu t'enfuis pas? Ça veut dire que nos trois lascars là à côté, avec une partie du public, vont revenir. Il a attaqué fort quand même, je trouve, non ?
Mais il a raison.
Ouais, je suis un peu
aussi. Si on peut pas dire ça ici, on le dit où ?
Ah oui, bah là, on peut se lâcher du coup. Alors eux aussi, ils sont de quelle génération ? Ils font partie du web, je sais pas. Fibre optique, c'est très récent. Il est arrivé il y a
XW.
Il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans. De retour, ça s'est passé comment, mon cher petit trio ?
Il y a deux camps. Voilà, il y a moi et les autres. Et en plus, ils sont vraiment vénères. Hein.
Ça respecte un peu ce qu'il a fait. Hein. Il y a sa chronique qu'il a déjà écrite, en fait, et les autres.
J'ai commencé, j'ai dit un truc, et ils sont énervés tous les deux, et voilà.
Alors là, donc on parle du second débat, qui intéresse également beaucoup 2020, puisqu'on va parler de télévision. Et on va parler donc des relations très compliquées qu'il y a entre la télévision et Internet. Et le fait qu'on a tous toujours pensé qu'un jour la télé arriverait à comprendre Internet et qu'il y aurait des émissions de télé d'Internet ou inversement, et que jusqu'à aujourd'hui ça a toujours été très très compliqué, et 2020 est une position extrêmement... T'as vu ça de tous les côtés, toi, hein, de l'intérieur, de l'extérieur, t'as tout vu.
Ouais, pour le coup là, je peux parler.
D'accord. Alors, mais du coup, de votre côté, qui commence? Qui parle de
Alors, je vais exposer ma thèse et après, ils vont exploser ma thèse.
Ok, alors c'est parti.
Voilà. Alors, je vais faire des guillemets avec des doigts, donc le son ne sera pas parfait. Donc, en fait, la télé, elle tente de comprendre Internet, comme elle a voulu comprendre le cinéma et elle tente aussi un petit peu en ce moment de comprendre les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, elle veut faire en sorte que les gens n'aillent pas louer leur temps de cerveau disponible sur Internet, mais qu'ils restent captifs des programmes télévisuels. Selon moi, la télé n'a pas compris comment aborder l'Internet. Essaye de maîtriser ce média, mais se plante complètement. Et à l'inverse, en fait, l'Internet s'infiltre dans la télé, mais malgré eux, malgré leur volonté de contrôle. La télévision est intéressée par maîtriser Internet parce que Internet remet en cause des fondamentaux de la télévision, comme le CSA, médiamétrie, les typologies d'audience sur les programmes, donc leur modèle économique, et même tout simplement l'audience tout court, c'est-à-dire que un programme, dans une hypothèse qui n'existe pas, mais s'il y avait un programme similaire sur Internet et un programme similaire à la télévision, peut-être qu'un jour on peut imaginer que ces programmes prendront de l'audience. Voilà. Donc elle essaye de produire des émissions, 2020 en sait quelque chose, elle essaie également d'en parler par des hashtags ou par des en mentionnant de plus en plus à l'américaine des arrobases dans les journaux télé. Mais à partir du moment où elle a cette volonté de contrôle, ça tombe à plat.
Pour toi, ça tombe à plat.
Voilà, ça tombe à plat. Tandis que quand c'est l'inverse, quand c'est Nikos Aliagas, Twito, qui prend un selfie de lui avec le hashtag, tout de suite, ça s'enflamme parce que c'est quelqu'un de l'Internet. Et en fait, Internet, c'est une entité qui reconnaît que deux autorités. Déjà, l'autorité de la rébellion. Vous n'êtes pas là pour me contrôler. Donc, surtout pas la télévision des vieux ringards, non merci. Et éventuellement, on se soumet à l'autorité intellectuellement compétente. C'est-à-dire que si effectivement quelqu'un, c'est un grand ponte, ouais, dans ce cas-là, on va suivre ses recommandations. Voilà. Donc, alors, moi, je maintiens que quand il y a une émission de... Encore 30 secondes. Quand il y a une émission genre Top Chef,
ouais,
et que le hashtag Top Chef monte en trending topics sur Twitter, on est dans le mix homogène à l'heure actuelle avec les outils actuels de la télévision et de l'Internet.
Donc pour toi aujourd'hui, Top Chef, c'est le top de ce qu'on peut faire comme mariage entre la télé et Internet.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, une anecdote qui date d'hier. M6 a convoqué les blogueurs influents, tuto influents, j'en fais pas partie, à une projection privée. Petit personne ici n'en fait partie. À une projection privée. Non, mais c'était un peu des losers parce que je vais expliquer pourquoi. À une projection privée pour l'amour est dans le pré, hashtag ADP. Et malheureusement, hier, il se passait plein de trucs sympathiques comme l'E-Cube, par exemple. Et malgré les efforts de ces tweetos, malgré même ce qu'ils ont traîné comme locomotive en termes de buzz, à aucun moment ADP n'est arrivé en training topics français. Preuve que, en fait, à partir du moment où il y a cette volonté de contrôle, eh ben, ça tombe à plat. Mais par contre, s'il y avait des gens qui. Si le programme avait été de qualité et avait permis de créer du buzz, enfin, avait été orienté pour faire du buzz, il est de qualité, et que les tweetos avaient suivi, là, le hashtag aurait gagné et, on va dire, la guerre de l'audience aurait gagné.
Donc toi, tu as une vision assez romantique de la chose, il faut que ce soit spontané et naturel.
Oui, oui.
Que la télé arrive à séduire Internet.
Et puis, il ne faut pas croire, parce que je pense que médiamétrie, c'est un peu un Yalta de l'audience, tout le monde s'arrange, et le Yalta des budgets pubs. Mais ce monopole, ah ok, c'est ma vision non experte. Ce monopole peut gêner des gens, et l'évaluation d'une audience télé par le buzz qu'elle crée sur Internet, peut donner des modèles alternatifs économiques intéressants. Voilà.
D'accord. Buzz.
Comme par exemple ce qui se passe sur Twitch, c'est-à-dire il y a le deuxième événement le plus retransmis en live, c'était c'était une partie de League of Legends et il y avait 2 millions de spectateurs, tu vois, et à ce moment-là, voilà.
Donc toi, tu crois quand même qu'il y a un modèle qui peut se trouver, ou tu penses que c'est une fausse bonne idée de
s'acharner? Si le modèle, il existe. Mais c'est Internet qui a la main haute, et il y a une certaine anarchie qui a la main haute sur la volonté de contrôle de personnes qui n'ont pas encore la compétence.
D'accord. Donc pour toi, en fait, à un moment, la télé doit s'inféoder Internet et dire « Ok, le dominant dans le couple, c'est toi, et c'est moi qui mords l'oreiller. »
Tant qu'elle n'a pas la compétence. Toi-même, tu as travaillé avec France 4, et c'était des gens qui n'étaient pas, hyper au point sur la réalité d'Internet aujourd'hui.
Je n'ai aucun commentaire à faire à ce sujet-là.
Attends, du coup, la suite.
on ne peut pas alors, être d'accord. Donc, avec ce que vient de dire.
Alors, Mélissa, toi, tu n'es pas d'accord du tout. Toi et Daz n'êtes pas d'accord.
Ce que Fibre semble un peu dire, c'est le second écran est une phase positive de, enfin, le deuxième écran. Je ne sais pas s'il y en aura un troisième un jour. Est une phase positive de l'intégration d'Internet à la télé. Pour moi, c'est justement la télé qui formate Internet, qui prend en gros, ah, ça va faire de l'audience, les gens vont en parler, on va parler de notre émission, ça va nous faire de la com. Donc, on va prendre cet aspect-là et on va le mettre dans des paroles et des actes, à Roland-Garros. Voilà, on va dispatcher un peu d'Internet dans la télé en se disant, oh là là, faut quand même les valoriser, tous ces Internets qui parlent de nous et qui font de la com gratos.
Mais du coup, pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas très constructif, en fait. C'est un, peu,
non,
c'est
surtout,
un peu hypocrite.
Surtout, c'est encore la télé qui dit, on va prendre nos formats existants. Et on va mettre de l'Internet dessus. En fait, du coup, Internet perd encore.
Ah, vous, pourtant,
surtout,
Internet perd.
Point plus important, j'estime que mettre Internet dans des formats télé très figés, c'est compliqué. C'est-à-dire que donc, toutes ces émissions qui ont existé depuis, je sais pas, 2008-2009 pour parler de l'Internet, des émissions télé à propos de l'Internet. Donc, il y avait le Grand Web Z, le 20-20h. Faut pas rater ça. Plein d'émissions qui ont été créées pour un peu expliquer l'Internet, expliquer ce qui se passe sur Internet. Toutes ces émissions ont tenté de mettre une petite dose d'Internet dedans en faisant des lives enfin, en parallèle
plus
ou des choses
grande,
comme ça.
Parce que c'est, oui, on en parlait tout à l'heure avec Vinvin, mais c'est vrai qu'entre
moi,
le Grand Web Z.
Je peux en parler personnellement parce que j'ai livé une émission du Grand Web Z à l'époque en 2011.
Livé donc.
Hein. Livé. Parce qu'en fait, donc y avait une équipe.
On n'est plus un anglicisme près dans cette émission.
Oui, on a un quota d'anglicisme à faire.
Il y avait une équipe de personnes qui, en fait, racontaient en direct ce qui se passait à l'antenne sur un live pour qu'il y ait une trace sur Internet de ce qui se passait à la télé. Et c'est vrai que ça rencontrait un public assez limité. Et que c'était, l'audience, ce qui se passait à la télé et ce qui se passait sur notre live était assez mal lié, disons. Donc, en fait, pour l'instant, la télé essaye de faire quelque chose avec Internet, mais juste d'expliquer ce que c'est ou de dire ce que c'est. Mais, enfin, essayer de contrôler Internet, pour moi, est une défaite totale. Et en fait, ce qui explique le mieux Internet, enfin, moi, ce que j'ai vu de mieux à propos d'Internet, c'était des documentaires. C'est pas des émissions de télé, parce qu'en fait, les émissions de télé, elles sont dans des exigences de pub, de timing, qui sont, à mon avis, trop fortes pour parler de ce qui pourrait plaire à un public de télé. Et du coup, faut trop expliquer de choses et c'est pas, disons, l'esprit d'Internet. Bah, est-ce que tu regardais ces émissions, toi?
Va sur Twitter un match de Coupe du Monde, ce sera, si t'aimes pas le foot,
non,
tu vas souffrir.
Mais c'est
pas
ce que je te dis que t'as pas regardé, faut pas rater ça, alors que t'es dans la cible.
Ah. Si t'as regardé, faut pas rater ça.
Je suis un peu fatigué, je me souviens pas de ce que c'est, faut pas rater ça.
Bah, je crois
l'émission de Florian Gazan, tu sais, qui a vécu 6 mois.
Non, non, c'est
pas. Sur France 4.
Daz, toi, t'es d'accord avec Mélissa, du coup?
Je suis plutôt d'accord avec Mélissa, même si Fibre Tigre a un petit peu nuancé son propos, qui était, n'est-ce pas, bien plus tranché en coulisses. Je pense effectivement que la télé n'a rien à gagner à utiliser Internet, enfin, à faire plus qu'utiliser Internet comme un outil. Je pense que la télé essaie en fait de maquer vraiment au sens proxénétisme Internet. C'est-à-dire tant que Internet reste à sa place pour commenter en live notre émission, c'est très bien. Mais sorti de ça, en fait, il se passe pas grand-chose.
Il y a pas de modèle ou de mariage hybride comme on le fantasme tous. Mais
déjà, enfin, finalement, je suis en train moi de me demander c'est quoi ce fantasme finalement. Qu'est-ce qu'on aimerait voir d'Internet à la télé? Parce que donc Fibre disait que Top Chef par exemple était l'exemple complet de l'intégration d'Internet réussie, etc. Moi, quand je regarde Top Chef, si tu mets un bandeau en bas de l'écran pour pas voir les hashtags, il y a absolument rien qui parle d'Internet à aucun moment.
C'est faux parce qu'ils disent verbalement.
Oui, ouais, de temps en temps.
Tweeter.
Voilà, super.
Super. Consulter sur votre application avec des vignettes.
Voilà.
Les recettes, machin.
Comme un macro dit à son cheptel, va sur le trottoir, s'il te plaît, pour me rapporter de l'oseille. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que, enfin, je vois pas en fait ce que la télé aurait à gagner, puisqu'on a déjà évoqué le fait qu'Internet était en concurrence, c'est-à-dire que quand on est sur Internet, on regarde pas ce qu'il y a à la télé. Je vois pas ce que la télé aurait à gagner finalement à pousser ses téléspectateurs à aller sur Internet. Donc ils poussent au maximum, le format qui retient le téléspectateur devant sa télé, donc le deuxième écran. Mais je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux, parce que finalement, si on réussit à intégrer totalement Internet tel que nous on le conçoit, c'est-à-dire sans formatage nécessaire, dans l'instantanéité, voire asynchrone, c'est-à-dire que Internet, l'intérêt, c'est justement de pouvoir parler de trucs, ok, on parle des trucs qui buzz dans l'actualité, etc., mais l'intérêt d'Internet, justement, la force du média, c'est de pouvoir parler de machins qui sont sortis il y a 2, 3, 4, 10, 15 ans, ouais, qui n'ont aucune actualité,
autre que la pure découverte et l'intérêt de la chose. Et je vois pas en quoi ça peut cadrer avec un agenda de responsable des programmes qui a des objectifs de publicité à faire, de chiffres à faire rentrer, d'audience. Pour moi, les deux médias sont un petit peu incompatibles, quoi.
Toi, vraiment, t'as vécu ça des deux côtés. Puisque
t'as fait.
T'es en train de boire. J'ai fait un bon timing. Ouais. Toi, t'as vécu ça des deux côtés, puisque t'as travaillé sur deux émissions que t'as présentées, certaines que tu as écrites, que tu as plus qu'incarnées. T'es aussi un internaute qui a beaucoup regardé la télé en tant qu'internaute. Est-ce que t'es plutôt de l'école de fibre et de la vie de fibre en disant on peut trouver certains terrains d'entente aussi mesurés soit-il, ou est-ce que tu serais plus comme Mélissa et Das qui disent qu'en gros la télé est une sorte de flatterie hypocrite d'internet et qu'en fait elle utilise de manière très limitée, très limitante et pas très constructive et qu'il n'y a pas de modèle qui existe en fait?
Je suis plutôt sur leur ligne à eux deux.
D'accord.
Ça fait plaisir d'entendre ça.
Non mais c'est... Alors oui, ce débat-là, moi, je vis dedans depuis 5 ans.
Oui.
Mais bon, pour tempérer ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a des mariages possibles, mais c'est du mariage multimédia, quoi. C'est voilà, au lieu d'envoyer une lettre pour le courrier des lecteurs, on envoie un tweet, ça va plus vite. On peut réagir en live.
Ça change pas grand-chose.
Ça change pas grand-chose. Si, il y a une expérience utilisateur qui est rigolo, mais en fait, vous parlez plutôt de comment on parle d'internet à la télévision, et toi, c'est comment on utilise internet à la télévision. Donc, ils parlent pas exactement de la même chose. Donc moi, comme tu disais avant d'aller vers eux, c'est je peux plus regarder un match de foot sans live tweeter. Ou alors si, quand je suis cuit, mais ça change quand même l'expérience utilisateur. Même j'adore The Voice dans la première partie, les trucs à l'aveugle, c'est vraiment à mourir de rire de voir les tweets des gens par rapport à l'émission ou les soirées Miss France ou les trucs comme ça.
Toi, le ça change de second écran, ça marche.
Ah bah ouais, moi ça marche à fond, ça change le contenu. Une soirée Miss France il y a 10 ans, bon moi j'adorais déjà, mais là maintenant ça prend de la saveur, les commentaires sur les trucs, quoi. J'aime beaucoup cet enrichissement de l'émission de télé par le deuxième écran.
L'Eurovision,
on parle pas, j'adore.
Bah, l'Eurovision, c'est le JO du live tweet.
Non, mais l'Eurovision, c'est toute l'Europe qui tweet, mais c'est ça. Qui s'engueule.
Donc
tu
vois, c'est assez extraordinaire, mais c'est plutôt comment les deux médias vivent ensemble pour vivre un troisième truc, quoi.
Mais parce que, oui, mais là, on a quand même un programme télé qui en soi n'a pas changé. Et qu'Internet vient préempter ou parasiter ou commenter ou apporter une surcouche.
Il pas vient préempter, il vient amener autre chose. Tous les annonceurs sont sur les dents pour les choper.
Mais la télé change pas. Second degré en fait.
Oui, mais la télé en parler aussi. Le programme télé en lui-même ne change pas. On
non,
est d'accord.
Le programme passif. Télé en lui-même ne change pas. Et là, je les rejoins parce que c'est vrai. Ce sont vraiment deux mondes qui attendent deux choses très différentes. La télé, c'est un format. L'Internet, c'est l'anti-format. Donc déjà à la base, on devrait arrêter d'essayer. Je sais, j'ai essayé. Donc, comme tu disais, on a fait le grand WebZ, on en a fait 4. Bon, alors après, c'était...
Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le grand WebZ?
Alors, le grand WebZ, c'était une émission mensuelle à 23h40. Donc, tu vois, pour installer un rendez-vous, sur France 5. Donc, le truc, on était 4.
C'est RT qu'on diffuse sur la simple soir.
Alors, c'était une expérience. Le but de cette expérience, donc, je co-présentais cette émission avec François Rollin, qui est un humoriste, que vous connaissez peut-être pas tous, vu votre âge, mais quand même...
Quand même. Ouh.
Non, tu rigoles, mais non, mais ils me connaissent pas moi, ils me connaissent pas Rollin, et ils connaissent pas France 5. Et cette émission, le but, c'était d'essayer de retrouver la folie qu'il y avait dans l'internet en faisant un peu n'importe quoi dans l'émission. C'était un peu le pitch de départ avec un grand improvisateur qui est François Rollin, qui reste un mec incroyable, et moi qui essayais de faire ce que je pouvais. J'avais jamais fait de télé. Simplement, à la première réunion à la chaîne, c'est bon, d'accord, bah c'est génial, mais c'est quoi le conducteur de l'émission? Donc le conducteur, c'est minute par minute ce qui va se passer. Donc aller faire de l'improvisation générale, de la grande folie à 23h40 une fois par mois avec un conducteur à la seconde près. Donc il y avait déjà un problème dans la structure de l'émission au départ.
Et ça, les dirigeants n'arrivaient pas à comprendre.
Mais si, mais certains si, mais on a tenté des trucs, quoi. Après, on se dit, bon, bah, à 23h40, tu peux essayer. C'est 70 minutes en direct. Bon, bah, on a essayé. Et il y a eu des trucs intéressants. Ce que vous faisiez était super intéressant, mais effectivement, ils étaient 15 à pouvoir le voir. Il fallait voir sur un deuxième écran, sur un blog, pendant l'émission, qui était elle-même vue par 12 personnes. Enfin bon, c'est des expériences multimédia incroyables. Non, mais j'exagère parce qu'en plus, il n'y a pas eu des si mauvaises audiences. Mais c'était trop compliqué parce qu'on a essayé de mettre la folie du net dans la télé, ça marche pas.
D'accord, donc là, vous cassez la gueule.
Là, on s'est cassé la gueule. Bon, après, il se trouve que j'ai eu quelques soucis relationnels avec François Rollin. Mais donc après, ça devient juste une histoire d'homme. Voilà, tu peux pas avoir une émission co-présentée par deux mecs qui s'entendent pas vraiment, quoi. C'est compliqué.
Ah oui, bon, ça c'est compliqué. Deuxième expérience,
donc le 20-20 heures, que peut-être d'autres ont peut-être un peu plus vu parce que c'était l'année dernière. Donc, tous les dimanches soirs à 20h sur France 5 toujours.
Grosse promotion là, 3h de gagner.
Ah bah attends, soir. Mais tu rigoles. Hebdomadaire à 20h le dimanche, c'est l'heure sacrée de la télévision. C'est-à-dire qu'à cette heure-là, il y a Claire Chazal, il y a Zorro.
Et il y a toi avec une
GoPro. Il y a le Canal Football Club, il y a Matt Lesguy, tu vois, il y a que des pointures de la télé de 30 ans. Zorro.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Fait 1,3 million par dimanche, quoi. Sans rien foutre, parce qu'il est mort, le mec.
Ouais, c'est clair.
Nous, on était là, on galérait pour faire notre émission. J'avais une caméra sur la tête pour faire le malin. Je me déguisais en des trucs.
Alors, juste pour résumer aussi, ouais,
le 20h. Le 20h, c'était une émission qui parlait de la culture numérique. Alors, plutôt que de se dire, ce coup-ci, on va improviser pour faire les malins comme sur le net, on va quand même traiter des sujets du net. On a traité de trucs super intéressants sur l'éducation sur le net, les cyberguerres, le sexe sur Internet. On a tout fait, hein. Mais entremêlé de fiction de la vie de la prod, où on déconnait pas mal, et puis moi je me déguisais, les gens donnaient le costume pour la semaine d'après, on faisait vaguement de l'interactif, c'était sérieux, mais. Et ben ça marchait, on en a fait 30 quand même. Et pourtant, ils nous demandaient un conducteur aussi, mais on avait appris qu'on pouvait essayer de faire un conducteur et commencer à rentrer dedans. Mais à la fin, quand il a fallu renouveler l'émission, on n'a pas renouvelé l'émission, moi j'aurais bien aimé, hein. Mais c'est trop. Taré, quoi, la culture internet en soi, elle peut pas passer à la télé. Les mecs savaient jamais ce qu'on allait faire.
Mais c'était le but du jeu, oui.
Ouais, c'est le but du jeu, mais à la fin, c'est too much, quoi. Vaut mieux mettre un bon documentaire sur les gnous à 20h, c'est bon. Tu feras la même audience, ça coûte 3 fois moins cher. Non, même pas d'ailleurs, c'est pas vrai, ça coûte le même prix.
Ouais, ça coûte cher.
Mais est-ce que vous avez des consignes de la chaîne sur, ah non, sur mais ce qu'il fallait dire ou faire?
Non,
ou...
non, ils nous ont pas du tout embêtés. Ils venaient tous les vendredis soirs regarder ce qu'on faisait et c'était diffusé le dimanche. Ils nous ont jamais emmerdés, mais jamais. Une fois, ils ont caché un logo sur le truc sur le cul parce que c'était XX machin. Bon, une fois en 30, ça va. Non, ils ont été impeccables. Et puis, il y a une bonne partie de chez eux, des gens qui comprenaient l'émission. Puis, d'accord, une autre partie, ils la comprenaient pas. C'est cette partie-là qui a gagné. L'audience, elle était bonne, contrairement au Grand Webzé où je peux annoncer qu'on avait une audience de merde. Le 20-20h, ça allait. Il y avait même pas d'objectif d'audience parce qu'ils pensaient que c'était intéressant pour la télé et pour les gens de faire de comprendre l'internet.
Voilà. Donc, selon toi, ça marchera jamais. Internet à la télé, ça marchera pas.
Maintenant, en 2014, je me demande si même la question se pose. C'est-à-dire. Voilà. Je crois qu'on a fini cette question.
On arrête Studio 400.
Oui, mais il y a encore des gens à la télé qui veulent faire des émissions sur le buzz, quoi.
Non, mais oui, après, tu fais le zapping sur des 17 où ils prennent des vidéos sans les payer. Ils vont monter tout un tas de trucs, mais c'est rien, ça. C'est pas de l'internet.
Oui.
Retrouver ce qu'on fait là à la télé, c'est impossible. Demander à 3 mecs de se barrer pour aller préparer la chronique, c'est impossible. C'est pas que c'est pas intéressant. Les mecs de les chaînes, ils sont pas plus cons que nous. Ils sont contents de pouvoir vivre ça. Mais c'est juste, ça rentre pas dans la case. Leur obsession, c'est que tu zappes pas. Tu laisses 10 secondes de blanc pour des gens. Mais moi, tout à l'heure, j'étais malade. Pourquoi? C'est les vieux restes. J'étais là, putain, mais courez, quoi. Courez, courez, on perd tout le monde. Mais bon, on perd personne, ça va. Et donc, tu peux pas faire cette culture-là en télé, ça marchera pas. Donc, soit c'est hyper formaté, mais du coup, c'est pas Internet. Soit c'est Internet, mais alors, il faut un espace, genre une émission nocturne. Il faut faire du D8 de l'époque. Où on laisse tout le monde. Mais ça n'a pas marché. Ils ont essayé de faire ça.
Il y a 5 ans, il y a 3 ans.
Non, mais Direct 8 au départ, ils ont essayé. C'était le but de Direct 8, hein. Ça a duré quoi, 3 mois au début.
C'est vrai que c'était, je crois que c'était pas jojo à voir. Hein.
Bah non, parce que qu'est-ce qui se passe quand le problème, c'est que tu crois que c'est cool, mais quand tu commences à improviser devant une caméra, mais rapidement tout le monde s'emmerde. Hein. Parce que il faut savoir dire des trucs. Déjà là, c'est limite, tu vois. Et on est 6 à 6 mètres. Hein.
Donc on imagine, est bien.
Allez-y,
bien,
on fait les cons comme sur Internet. Vas-y, mon gars.
Faites de rire.
Ça se travaille. Donc les chaînes sont là pour dire, vas-y, donne-moi ton minutage. Qu'est-ce qui se passe à la minute 12? Bah voilà.
Mais tu vois, enfin, excuse-moi, Sylvain.
Daspi Sylvain.
Mais tu vois, en fait, quand tu parles aussi d'Internet, tu opposes vraiment la folie. On fait les cons sur Internet, alors que la télé est sérieuse. Et moi, déjà, cette vision-là aussi m'exaspère. C'est-à-dire le fait que Internet, c'est la déconne, il n'y a rien de sérieux, on se fend la gueule. Et par contre, à la télé, attention les gars, serious business, Patrick Sébastien, le grand cabaret, machin, ça se voit que c'est des trucs qui changent, vraiment, qui apportent la géopolitique en prime time sur France 2 le samedi soir. Et déjà, cette vision-là, pour moi, elle est ultra biaisée. elle est déjà préorientée en fait.
C'est trop biparti en fait.
Mais c'est trop... ouais, en fait, on réfléchit à Internet. Pour moi, la télévision vraiment, c'est un virus. C'est horrible. Et ça pervertit tout ce que ça touche, parce qu'il y a justement des logiques d'audience et des logiques de chiffres. Et du coup, quand tu commences à t'intéresser à Internet, tu le fais avec les automatismes, et tu le disais toi-même, de la télévision. Donc forcément, tu dois opposer un média un petit peu, je dirais vraiment pérenne, parce que là, depuis X années, à un truc qui joue le rôle un peu de trublion, de zouave. Hein, et ça, pour moi, c'est pas normal. Je veux dire, je comprends pas déjà... qu'en 2014, finalement, on en soit toujours là. C'est-à-dire, excuse-moi, Internet,
mais
c'est
sur
la
Internet,
déconne.
Internet, il y a une logique de chiffres, hein, les RT... Excuse-moi, les visualisations des articles, sur le plus subs,
mais je dis pas, non,
mais
attention,
ça qui compte. Hein, je dis pas
le contraire pour, justement, les gens qui essayent d'en vivre. Déjà, est-ce qu'on peut vivre d'Internet? Autre débat, autre temps, tu vois. Est-ce que finalement, c'est bancable?
Bankable. Vous connaissez les sites Internet d'information?
Je sais pas.
Ah non, c'est
j'en
chose.
Lis pas.
Sylvain, tu voulais dire quoi, Sylvain?
Non, mais moi je rejoignais un petit peu Daz en fait. Quand on se dit.
Eh oui.
Quand on se dit. Quand on fait une émission qui parle d'Internet à la télé, il faut que ce soit improvisé, il faut que ce soit le bordel parce que c'est comme Internet. Qu'est-ce qu'on vise en fait? On vise les 150 tweetos qui aiment bien déconner la journée dans leur feed? Ou alors est-ce qu'on vise tous les Français qui se connectent à Internet tous les jours pour aller lire des sites d'information, pour regarder des vidéos, des sketchs d'Omar et Fred et des trucs comme ça, où c'est, à un moment donné, il y a une question de public aussi qui se pose. Le grand WebZ, ça visait qui?
C'est ça, on a oublié de le définir, ça.
Ah,
non, mais...
Mais parce que peut-être que vous vouliez pas, le définir,
super,
justement.
Ouais, on voulait pas le définir. C'était super expérimental. On savait pas trop qui en touchait. On n'avait pas pour mission d'expliquer YouTube aux gens qui connaissent pas YouTube. C'était, allez-y, on verra bien. Donc, on est parti à 220 000. On a fini à 90 000 personnes. Mais moi, je reviens juste sur, est-ce qu'on est sérieux sur Internet? Bien sûr, mais prends cette émission-là. Elle est impossible à faire en télé. Et je dis pas qu'elle est pas sérieuse, vous êtes sérieux, vous avez des choses intéressantes à dire, il y a des gens qui viennent dans le public, mais on fait exactement comme à la télé, là.
Ah, mais je dis pas le contraire.
D'accord.
Mais là, c'est gratuit.
Ouais, mais voilà. Mais c'est juste, c'est le sujet du truc que tu m'as demandé de faire, donc je vais me taire, mais tout le sujet, mais c'est horrible à dire, on va faire de la peine à tous ces jeunes qui nous regardent, mais le seul problème, c'est l'argent, c'est le seul.
C'est la grande différence.
C'est tout. Alors. Non, mais dans toutes les créations, moi, j'aurais adoré continuer à faire le con en vidéo sur Internet et devenir un copain avec les jeunes de Norman et tout, mais ça va être marrant, les gars. Moi, j'ai une femme et deux enfants. Donc comment ils font? Ils sont quatre en France à gagner de l'argent avec leurs vidéos. C'est pas un modèle, ça. Hein.
Ouais.
Cinq, allez, ils sont 10, le bagueule et tout. C'est pas un modèle pour tout le monde, quoi. Il faut au moins faire 1 million de vues pour commencer à toucher quoi?
1 000 euros.
1 000 euros. Bon, vas-y, fais 1 million de vues sans montrer ton cul, quoi. Pas simple. Donc, à la fin, c'est l'argent. Et puis ce studio, il nous est prêté, enfin je crois qu'il était prêté tout ça, mais fait l'équivalent pour une télé, ça commence tout de suite à coûter. Les gars, ils vont pas éternellement faire des chroniques gratuitement.
Bien sûr que si. Bien sûr que si.
Pour l'amour de l'Internet.
Non, mais la technique,
ça tombe bien, ça, vous dites ça, parce qu'il faudrait qu'on en parle.
Une émission comme ça, ça coûte tout de suite 100 000 euros à la télé, quoi. J'exagère. À peine.
Donc, mais donc du coup, les coûts,
du coup,
que...
à ce prix-là, il faut que ce soit bien préparé, il faut que les questions soient pertinentes, il faut que chaque chroniqueur soit légitime, il faut que l'animateur soit péchu, il faut que le public applaudisse son beau moment, parce que sinon, les gens s'emmerdent. Et toi, t'es là avec ton Internet, mais oui, au revoir, adieu. Donc tu restes ici. Et pourquoi je viens ici, moi, alors que voilà, on se connaît pas et tout, c'est gratuit, voilà. Parce que c'est cool, c'est libre, c'est foufou, ouais. Cette folie-là, elle est pas sur la télé. Elle n'existe plus.
Aux États-Unis, il y a quand même des programmes qui marchent super bien sur Internet, qui sont vus par des internautes et qui sont partagés.
Mais
les light shows
mais...
avec Jimmy Fallon, le samedi soir, le Saturday Night Live, ce genre de d'émissions où les sketchs sont ensuite découpés pour être mis à disposition sur YouTube,
quoi.
Etc.
300 millions.
Ils sont beaucoup plus nombreux que nous.
Mais non, mais c'est tout. Non, mais c'est,
est-ce, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'en France, on peut dire, par exemple, alors c'est un petit exemple anecdotique, mais No Life, c'est une chaîne qui a commencé par se payer par des abonnements d'internautes, qui aujourd'hui a une régie pub, donc elle a une certaine autonomie, et qui a des contenus uniquement numériques et qui parle que du numérique. On n'y est pas encore parce que c'est très orienté jeux vidéo et.
À chaque fois que je regarde, j'ai des clips de J-pop qui sont horribles, en fait.
Oui, bon, ouais, mais
c'est
intéressant parce que ça rejoint la remarque de Sylvain qui dit quel public. Il y a des tas de gens qui aiment ces clips.
Alors,
ils sont contents
de les otaques.
Et ils ont une émission par exemple sur le métal, et elle est exceptionnelle. Et si t'aimes le métal, faut regarder l'émission de No Life, quoi. Voilà.
En parlant du public, est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont peut-être un avis sur la question, ou alors qui, un, ont un exemple d'émission qu'ils connaissent qui, pour eux, marie bien Internet et la télé, ou une expérience, ici, par exemple, ou qui, au contraire, trouvent que on court après une chimère comme le cinéma, le jeu vidéo et plein d'autres choses comme ça qu'il faudrait complètement abandonner ce genre d'idée. Alors oui.
Ouais, le truc vrai, c'est que ouais, ça va être incompatible Internet et la télévision, mais à la télévision, on peut bien parler d'Internet en abordant certains sujets, en essayant de montrer aux téléspectateurs, voyez, toutes les possibilités d'Internet. C'est pas que des jeux vidéo, des gens qui font les foufous, des roulades et qui montent leur cul. C'est aussi plein d'autres problématiques. Et moi, je trouvais que par rapport à ça, l'invité est là, donc tant mieux. Le 20-20h, c'était une très bonne émission au niveau de la télévision française qui montrait les subtilités du truc, de l'Internet, en abordant de façon thématique plein de choses, le sexe, le piratage, la liberté, toutes les choses qui font peur à nos grands-parents ou à nos parents. Et je trouvais que c'était la première émission du PAF abordable.
Mais il était quand même obligé de faire des roulades et de se promener avec une caméra sur la tête.
Ouais. Oui, de chambre. Oui, mais tu ne crois pas si bien dire.
Il était obligé, mais ça marchait.
C'était de la vaseline pour faire passer les idées. Mais vraiment, si je puis me permettre.
C'est-à-dire.
Mais non, mais.
Permets-toi la vaseline, Vincent.
Non, mais on voulait nous faire une émission qui parle de la culture Internet, mais dès qu'on commençait à dire deux mots trop compliqués, mais même YouTube était compliqué. Est-ce que les gens vont savoir ce que c'est? Est-ce que ma grand-mère va savoir? Ouais, elle va savoir. Mais donc, on s'est dit, OK, pour faire passer de l'éducation sur Internet, faisons les marais, voilà, vieille recette. Et du coup, on faisait les malins, je me déguisais, effectivement, je devais faire des roulades. J'étais déguisé en femme, en Claire Chazal, en tout un tas de trucs. Mais ça passait, du coup, et ça marchait. Parce que l'audience, elle était pas dingue, mais quand même 200 000 un dimanche soir, c'était beaucoup. Et stagnante sur les 10 dernières.
Mais t'avais pas l'impression de pervertir un peu le...
Non, pervertir.
Je sais pas, ton intégrité, tu vois.
J'ai aucune intégrité, moi.
Ah bah ok.
Alors, une deuxième réaction au public.
Bonjour. Oui, en effet, parce qu'on parle beaucoup, en fait, de la vision spectateur ou visiteur, en fait, que vous avez, mais on parle quasiment pas, en fait, de la vision annonceur que peut apporter Internet en tant qu'extension. On mélange un peu de sujets qui vont être, à mon avis, les émissions qui parlent d'Internet et les émissions qui sont, en fait, qui ont une extension sur Internet et qui permettent quand même, au niveau annonceur, de pouvoir mesurer l'audience, et de savoir, en fait, ce qui va pouvoir plaire ensuite aux spectateurs. Pour enchaîner sur d'autres émissions, évidemment, qui auront autant de succès. Vous parlez d'Internet comme si ce n'était pas quelque chose qui était contrôlé. De mon point de vue, quand même, Internet est le royaume du tracking, où on sait absolument tout, on sait tous les RT, on sait le temps passé, quelle page a été vue, etc. Ce qui n'est pas forcément compatible avec la notion de rébellion dont vous parlez, en tout cas, de mon point de vue, ce qui permet justement, une fois de plus, de comprendre, d'analyser le comportement et de proposer davantage de contenu qui plaise aux visiteurs. On n'est pas dans une notion de qualité, en tout cas, vis-à-vis du visiteur, mais dans une notion de qualité et de tracking vis-à-vis de l'annonceur, en tout cas.
C'est donc, plus
de
ce pour toi, c'est un vrai Eldorado, c'est-à-dire que même si on fait les cons, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait les cons, mais que tout
on
ça, c'est transformé en data pour les annonceurs.
Que t'as fait le con, mais on va savoir ce qui s'est passé quand t'as fait le con. Et c'est ça qui est intéressant pour l'annonceur, en fait. Et
tu travailles du côté de l'annonceur ou c'est un avis?
Exactement, non, je travaille.
Ça s'entend.
Oui, c'est intéressant. Justement, c'est très intéressant.
Donc, je suis justement dans tout ce qui est tracking, dans tout ce qui est donc le SEO, l'analytics, l'AdWords, etc. Et nous, on travaille essentiellement sur la data pour savoir ce qui vous plaît, comment vous reproposez, comment vous remarketez sur YouTube. On parlait de YouTube comme quoi vous diffusez donc les vidéos dessus, mais faut pas oublier que l'intérêt de YouTube, c'est la monétisation derrière. Comme disait Vincent, c'est l'argent qui tourne derrière. Donc, au final, tout ce que vous faites va être monétisé. Absolument tout. Et c'est là, à mon avis, l'intérêt des extensions que vous allez trouver sur les émissions qui sont à la télé.
Et toi, est-ce que c'est exactement le modèle, en fait, de Twitter et Facebook qui sont en train, enfin, Twitter l'a déjà mis en place et Facebook est en train de le mettre en place. C'est la notion d'amplification du média traditionnel télé sur les réseaux sociaux.
Donc, ça serait la relation la plus aujourd'hui, on va dire, naturelle et saine entre Internet et la télé, d'une certaine manière. C'est d'avoir une caisse de résonance.
Moi, je suis pas vraiment d'accord, mais c'est intéressant la façon dont les annonceurs justement et les agences vont se rendre compte des usages des utilisateurs qui regardent la télé et se dire quand une pub passe à la télé, une pub pour telle marque de voiture, on va lui mettre exactement la même en tweet sponsorisé dans son live Twitter parce qu'il utilise le hashtag qu'il faut.
C'est le moment où Sylvain il a les yeux qui brillent et puis Daz il fait oh là 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 là. Alors on a deux dernières réactions et après on clôt le débat. Alors la première, oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je pensais que c'est un peu dommage de centrer tout sur ce rapport Internet-télé, parce qu'en fait, ça met la télé au fond presque trop d'attention sur elle, alors qu'il y a des mélanges qui, je trouve, marchent très bien, comme par exemple Internet-radio, qui a vraiment...
On voyait sur Twitter des gens réagissaient sur la radio aussi, oui.
Et ça a vraiment, par exemple, le podcast, quoi, la chose qui a rendu tant de gens célèbres sur Internet, ça vient de la radio. Il y a des radios qui revivent grâce à Internet. Donc voilà, pourquoi.
Tu penses, toi, que Internet, en fait, on s'est focalisé sur la télé, effectivement, parce que l'expérience de 2020 en la matière, mais tu penses qu'en fait, Internet peut se marier avec d'autres médias ?
Bien sûr, oui. Ne serait-ce que même le plus vieux média comme la littérature ou les journaux, ça marche très bien. Donc il y a une sorte de prestige de la télé qu'elle ne mérite même pas forcément encore aujourd'hui.
Je suis d'accord.
Et toi, Vincent, tu es d'accord là-dessus ? Tu penses, toi, est-ce que tu as tâté de la, radio, oui. de la scène, tu écris des textes, etc. Est-ce que tu oui. penses que...
Mais je suis d'accord aussi. J'ai fait un peu de Europe 1. Mais c'est très différent. Là, juste la comparaison, elle est simple parce que les deux font de l'image avec un écran carré et les contenus se tirent la bourre. La radio, c'est très complémentaire. Là, je suis vraiment d'accord. C'est un média qui est encore mieux que la télé parce qu'il y a moins d'hystérie. Oui. Donc là, ça se rapproche. C'est pour ça que ça se rapproche un peu d'Internet. Il y a moins cette hystérie de l'image.
Encore dans les radios libres, un peu le côté.
Ouais, ouais. Mais...
D'accord. Et toute dernière réaction du
Bonsoir.
Public. Bonsoir.
Est-ce qu'on considère que Plus belle la vie, c'est de la télé ou pas?
Malheureusement.
C'est de l'art.
Ouais.
Parce que, en fait, Plus belle la vie, ils ont fait un truc foufou l'année passée. C'est-à-dire qu'ils ont intégré une sorte de jeu Internet à leur série. Et donc, ils ont, 6 semaines avant, ils ont produit des épisodes dans lesquels ils ont intégré un site Internet. Alors, il y avait toute une histoire autour de vidéosurveillance du fameux bar, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais...
Le Mistral.
Ne faites pas genre, vous ne savez pas comment s'appelle le bar.
Je ne suis pas.
Le Plus belle la vie. Hein.
Mais donc, il y avait...
On peut citoyer maintenant.
Il y avait toute une histoire autour de la vidéosurveillance. Et l'objectif, c'était de faire en sorte que les internautes aillent en direct sur le site Internet du fameux truc de vidéosurveillance pour faire sauter le site. Et il y a eu un monde dingue sur l'internet à ce moment-là, en fait.
Donc c'est une sorte, on appelle ça un ARG, chez les Américains, Augmented Reality Game.
Exactement.
Et donc il y a eu un ARG de Plus belle la vie.
Ils ont fait, ouais, vraiment. Ils sont très bons là-dessus.
Ils sont très bons, ils ont un super modèle publicitaire où quand tu regardes les émissions en podcast, tu peux cliquer sur les vêtements des personnages pour les acheter sur les sites en ligne.
Ah oui, ils sont loin,
ouais, ils sont très loin. Plus belle la vie, ils sont beaucoup plus loin qu'on ne le pense.
France 3 leader sur le.
Ah ouais, France 3 visionnaire sur le mariage.
Donc ça a marché, en fait.
Donc là, on a.
C'est un bon exemple. Non,
c'est incroyable. Donc en fait, on finit sur une réussite d'intégration entre télé et internet.
Je crois qu'il y a des gens qui veulent encore parler d'ailleurs.
On a malheureusement plus de temps. Malheureusement, on a plus de temps. Regardez, c'est le gong. Gisela, en fait, il a le bras comme ça sur son gong depuis 35 secondes. Il a
on
le
est
muscle.
Il n'y a pas très internet. Il n'y a pas de commentaires sous le débat.
Bon, en tout cas, merci beaucoup. On finit sur Plus belle la vie. On ne peut pas finir le débat mieux que ça. On peut applaudir en tout cas nos trois chroniqueurs. Merci. Non, mais Plus belle la vie, quoi. C'est beau de se dire que Plus belle la vie, c'est un peu la chimère du multimédia.
Belle revanche.
J'arrête tout de suite. Allez, on termine cette émission sur le troisième et tout dernier débat, ou tout dernier sujet dont on va parler, mais sauf qu'on ne sait pas de quoi on va parler, parce que c'est 2020 qui va nous parler d'un sujet dont tu voulais nous parler. Tu nous en as un tout petit peu fait le teaser pendant le
Je voulais parler de la gratuité.
Alors, la gratuité.
Éloge de la gratuité.
On teste faire. Éloge de la gratuité.
Non, mais je ne vais pas réciter un poème non plus.
Ouais, tu m'as dit que t'avais écrit.
Non, j'avais écrit, mais comme on a déjà dit un peu tout ce que j'avais écrit, je ne vais pas sortir mes textes.
D'accord. Alors, éloge de la gratuité, 2020.
Non, parce que après, quand tu m'as dit si tu pouvais préparer un truc pour mardi, tu m'as dit ça jeudi, et puis on a raccroché.
J'étais large.
Ouais. Et puis j'étais là chez moi, je me suis dit, putain, il est gonflé lui quand même. Il me demande de bosser gratos. Je le connais pas, j'ai jamais vu, il fait une émission, il va y avoir plein de monde, pourquoi je ferais ça? Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je comprends tout
à fait. Pourquoi est-ce que je ferais une chronique? Alors que c'est mon métier, je vais pas faire genre, c'est juste parce que ça fait 20 ans que je vis de ça, j'écris pour la télé, la radio, la presse et tout ça. Et je me suis dit, mais j'hésite pas une demi-seconde, et pourquoi je le fais? C'est justement parce que c'est gratuit. Et alors je me suis dit, mais alors c'est ça l'internet, c'est le pied que j'y trouve, c'est parce que c'est gratuit. Donc je me suis replongé dans mon passé. Et je me suis souvenu quand j'étais jeune,
que 2004.
J'avais sorti, 2004, sorti mon caméscope de mariage, une petite perruque ridicule, et j'ai fait un show qui s'appelait donc Bonjour Américain, qui était gratuit.
À tous les sens du terme.
Ah, mais gratuit, j'avais jamais pris une caméra, je savais pas faire de montage, j'avais jamais joué à la comédie. J'avais juste vu une américaine qui s'appelait Amanda Condon, ça s'invente pas, qui faisait un show qui s'appelle Rocket Boom. Je sais pas si vous connaissez, c'est un show américain de geek. Et je me suis dit, putain, elle fait ça, je vais faire pareil, quoi. Il n'y a pas de raison.
Pourtant, c'est un esprit, hein.
Ouais. Ça cartonnait. C'était le show américain. Il n'y en avait pas en France. Je me suis dit, putain, je vais faire pareil. Donc, j'ai pris mon caméscope. Et j'ai fait un épisode, et puis là, tout le monde, waouh, génial. Puis deux, puis trois. C'est simple, à l'époque, on devait être trois ou quatre en France à faire des shows. Donc, il n'y avait pas le choix, tu nous regardais, nous, quoi. Et donc, cinq et six. Et j'ai fait 40 épisodes en 40 semaines. Je me suis emmerdé à faire ça, gratuitement. Et plus ça marchait, plus des gens arrivaient en me disant, mais tu veux pas faire la télé, tu veux pas te faire sponsoriser, tu veux pas faire gagner du pognon, tout ça. Et je l'ai pas fait.
T'as pas fait les pré-rolls Orangina?
Non, j'ai rien fait. Attends, j'avais un player propriétaire. Déjà, c'était un magique que ça marche, quoi. Et en revanche, ce que ça m'a apporté, c'est un milliard de choses. Si j'avais fait le même show à la télé, ça aurait été une catastrophe. Si j'avais pris une marque pour m'être sponsorisé par Coca, ça aurait été une catastrophe. Dès qu'il y avait du pognon, ça marchait pas. Et il n'y a pas un exemple, et vous en connaissez sûrement pas, bah, sur Internet, de mecs qui sont passés à la télé, ça a marché. 10 minutes à perdre, ils sont pris une raclée lamentable, alors que sur 10 minutes, sur leur site, ça cartonnait. Dès que le passage devient mercantile, ça foire. En revanche, quand tu te sers de ça pour faire quelque chose, ça marche. Du coup, je suis parti vivre aux États-Unis, j'ai travaillé avec Loïc Lemaire, le ton ennemi juré.
Celui dont on ne dit pas le nom.
Son idole secrète.
Non, mais ça, c'est grâce à ça, hein. Quelque part. Tu vas à la télé, c'est pareil. François Rollin, il avait vu le truc. Et la mise en scène, tout ça naît de ces trucs que j'ai fait gratuitement, mais qu'il fallait surtout pas essayer de reproduire. Voilà. Et ma réflexion, qui part un truc philosophiquement incroyable.
Énorme déception dans les.
Mais non, mais c'est qu'à la seconde où tu commences à vouloir faire de l'argent, ton projet web, il meurt. Et donc, je renversais ma chronique en disant, toi, qu'est-ce que tu cherches avec cette émission? Et je me suis demandé, comment ces gens, ces quatre types-là qu'on voit, excusez-moi mademoiselle, pourquoi vous écrivez gratuitement pour venir faire votre chronique? Qu'est-ce que vous attendez? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Parce que je sais que tu as essayé d'être animateur sur France 4, tu as participé à cet appel d'offres avec des émissions, tu as souffert même, je t'ai vu bloguer en disant, je suis en train peut-être de me prostituer, mais je vais le faire quand même, et puis merde, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu attends de ça, quoi?
C'est vrai, mais là, on revient quasiment à l'autre chronique qu'on s'était proposée. Et effectivement, la gratuité, aujourd'hui, on a tous lancé plus ou moins un projet de manière assez bénévole, on a fait un truc cool entre potes. Se pose toujours la question du moment, genre, ça nous prend du temps, comme tu disais, hein. Alors, enfant, pas d'enfant, charge, pas de charge. Ça nous prend du temps. Est-ce qu'on a de l'ambition derrière? Alors, effectivement, ce qui est très marrant, c'est que Studio 404, à la base, est un pilote destiné à être vendu à Radio France. C'était une maquette qu'on voulait vendre à Radio France. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'effectivement, exactement comme tu dis, on s'éclatait. Et qu'on allait essayer de pas faire du Radio France, finalement. C'est-à-dire, en gros, ne pas être dans un niveau, on va dire, d'intellect et de sérieux, ou même de code, etc., et de faire quelque chose de plus freestyle, de plus café des sports de la culture Internet. Aujourd'hui encore, on a toujours l'ambition de s'associer avec des plus gros médias pour faire augmenter, pour faire grandir 404. Mais c'est vrai que...
Mais pourquoi? Pour gagner de l'argent?
À chaque fois, on se dit que ce qu'on fait Mélissa, là ne rentrerait pas à la télé ou à la radio.
Ah, c'est sûr.
Parce que déjà, on dit putain 3 fois ou 10 fois par émission. Ça
non mais une démonstration, une démonstration simple du modèle gratuit qui fait gagner de l'argent. Après j'ai l'anti-modèle, hein. C'est que des tas de gens écrivent sur leur blog, ils écrivent bien, et ben il y a des journalistes ou des régies qui les appellent en disant écrivez pour moi.
Tu as un exemple de ça.
Moi j'ai écrit, l'âme m'a appelé, il m'a dit on va lancer Wired France, j'ai besoin de 5 articles. Après j'ai été contacté par le Pulsop, et ainsi de suite. Donc en fait il y a une transformation qui se fait. Et par contre, j'ai l'anti-modèle de ça. Parce que, donc, le modèle est viable, même s'il ne rend pas très, très riche. Mais dans le jeu vidéo, il y a ce qu'ils appellent le free-to-play. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter le jeu vidéo, maintenant, on vous le donne gratuitement. C'est un nouveau truc. Par contre, si vous voulez que le jeu soit facile ou si vous voulez gagner, il faut payer un moment. Et c'est un modèle qui a la cote en ce moment parce qu'elle permet de drainer beaucoup de gens. Et on croit que ces gens sont monétisables. Mais il apparaît que, hormis 2-3 grands noms, ça ne marche pas du tout. Voilà. Donc la gratuité, voilà, c'est un modèle où il faut trancher les choses.
Ben non, mais d'accord. Mais alors, du coup, tu t'arrêteras quand? Enfin, pourquoi vous faites ça alors? Vous voulez gagner votre vie un jour?
C'est bizarre. On a la place de l'invité en fait. Il va retourner 20 discrètement.
Ouais. Comment je les ai vus?
Concrètement, la première fois qu'on a fait cette émission filmée, le lendemain, on nous a appelé. On nous a dit, ça nous intéresse. Est-ce qu'on peut faire quelque chose?
C'est vrai qu'on s'est toujours aussi posé la question, comme tu dis, au moment où. Non, on risque de faire des compromis, on risque de perdre le succès de l'émission. Mélissa.
Au-delà de toutes ces réflexions de argent par argent, on s'est aussi dit, il n'y a pas d'émission qui parle de l'Internet comme on aimerait qu'on nous parle d'Internet.
Et donc, en fait, on s'est dit, bah, on va la faire. On a envie de parler, on a envie de parler à d'autres gens. Et on s'est rendu compte qu'il y a d'autres gens qui nous écoutaient. Pas des millions, mais juste ces gens à qui on s'adresse. Et pour le coup, on a une cible qui est très précise et très pointue. Et on n'essaye pas de parler à Madame Michu.
Voilà, c'est est-ce qu'il y a des Madame Michu dans le public ou est-ce que vous êtes tous des cibles Michu, très, très pointues
ouais, c'est vrai qu'on l'emmerde en fait, Madame Michu. Et, non mais tous les objectifs, justement, l'intérêt d'être libre comme ça, c'est justement d'avoir aucun objectif si ce n'est l'envie. Ouais. Je pense que 404 s'arrêtera le jour où on en aura ras le cul en fait. Mais c'est vrai qu'on ne cherche pas à tout prix à conquérir le monde ou en tout cas. Enfin. Fibre tigre mise à part.
J'allais dire que le jour on s'arrêtera le jour où une marque nous fera un procès parce que j'aurais traité de Mongolie.
Sylvain,
je suis assez d'accord avec vous tous sauf avec toi, maman.
Je suis
un petit peu d'accord avec toi, mais je suis pas à l'aise avec. Je suis pas à l'aise avec les généralités en fait.
Ah.
Tu nous expliques que dès que l'argent rentre en jeu, le truc se casse la gueule.
Mais c'est vrai ça par contre.
Sur le net.
Exemple de 10 minutes à perdre. Tu penses que les mecs ont lancé 10 minutes à perdre en se disant. On va se faire plaisir, on démissionne de notre taf, c'est juste pour nous amuser. On va pas essayer de gagner d'argent avec ça. On peut imaginer qu'ils se sont plantés sur Canal+, juste parce qu'ils sont mauvais aussi. Ça peut être envisageable. Non mais c'est vrai.
Attention les ennemis, Sylvain, attention.
Mais non mais c'est intéressant, c'est intéressant par contre de retourner le truc et nous demander pourquoi nous on fait ça. Bah effectivement parce qu'on se fait plaisir et que de toute façon on vivra jamais de Studio 404 parce que. Dans le concept, on n'aura jamais des audiences qui sont justement celles de la télé. On n'aura jamais d'annonceurs qui nous laisseront garder notre format et nous laisseront garder notre liberté de ton.
Mais pourquoi ? Je suis pas d'accord.
Et parce qu'on trage Google,
Si vous faites pas ça, alors. Non, mais je suis sûr qu'il doit y avoir une marque qui serait prête à jouer le jeu de la rébellion.
Oui, mais est-ce qu'on peut travailler avec une marque déjà ? Déjà. On n'est pas sûr, quoi.
C'est vrai que c'est compliqué. Mais alors, du coup, ce que tu disais un peu au début, ou si j'ai bien compris, ce que disait Fibre aussi, c'est qu'il y a un modèle économique. Moi, si je fais des guillemets, ça devient contagieux. Il y a un modèle économique de la gratuité qui te dirait qu'en fait, tu fais des trucs où tu t'éclates, mais ça devient ta carte de visite, d'une certaine manière.
Ouais, c'est plus le considérer comme une carte de visite.
Donc en fait, on crée des revenus indirectement.
Indirectement. Je suis tout à fait d'accord. Donc, mais je crois que si tu commences à vouloir monétiser ce que tu fais, ouais, et c'est ce que vous faites finalement.
C'est ce qu'on fait. On a tous des side projects à droite, à gauche, des trucs qui peuvent rapporter plus ou moins, mais en tout cas, 404, ça sert de défouloir.
Une règle, une généralité que Sylvain déteste, mais que j'y crois, c'est si tu fais quelque chose sur Internet suffisamment longtemps et suffisamment régulièrement.
C'est gratuit.
Non, ça acquiert de la valeur. Mais quoi que tu fasses, même si tu fais le truc le plus médiocre au monde.
Par exemple.
Tous les jours, tu tweets, j'ai faim. Et ben. À un moment, tu vas avoir 12 000 mecs qui seront là tous les jours en attendant ton tweet, tu vois. Mais dans longtemps.
Donc non, ça, mais c'est vrai. Ça, c'est de la valeur.
Mais oui, parce que t'as des mecs qui sont là. Et le jour où tu diras pas ça, bah, peut-être que ce message, tu pourras le vendre.
On peut te prendre au pied de l'année parce qu'il y a Navo, l'auteur de Bref, qui a créé le Alzheimer Guy, qui tweet toujours la même chose depuis 3 ans, qui vient d'arriver sur Twitter, c'est génial.
Ah, c'est ça.
Et ça marche. Bon, après, pour le monétiser, c'est autre chose, mais. Donc, il y a quand même une issue pour vous. Pour toi, il y a une issue en tout cas. Enfin, la gratuité, c'est quelque chose qui est
là,
intéressant.
Nous cinq, on vit du numérique et on fait du gratuit. Ouais. Il a fait du gratuit sur. Il fait aussi du gratuit.
Officiellement,
il y a deux jours.
D'amour et d'eau fraîche.
Voilà. Donc.
Est-ce que dans le public, il y a des avis par rapport à la question de la gratuité ? Oui, il y a une main qui se lève derrière.
Courageusement,
parce que c'est le premier. Merci d'en être.
Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai un avis qui est peut-être un peu différent, même si je suis. D'accord avec vous sur tous les points. Vraiment, ce qui m'importe quand je crée et que je donne gratuitement sur Internet, c'est en fait, je me sens redevable d'Internet. Internet m'a énormément apporté. J'ai intégré, entre guillemets, Internet suite à l'écoute de Saga MP3 et les forums et tout ça. Et je me suis construit grâce à Internet. Et je me sens redevable tout simplement. Et j'espère contribuer à la construction d'autres personnes en redonnant gratuitement
d'accord.
sur Internet.
Donc toi, tu es le genre de personne qui dit, voilà, j'ai grandi grâce à l'éducation nationale, aujourd'hui, je paye mes impôts avec plaisir, parce que, voilà.
Ouais, moi, je suis là pour payer mes taxes si ça permet à tout le monde de se construire, et voilà.
Donc pour toi, la gratuité, c'est t'as une vision extrêmement optimiste de la gratuité.
Moi, j'ai l'impression que les pères fondateurs étaient très gratuits, ouverts pour quelle que soit leur motivation, et ça a continué de s'engendrer parce que les gens, ils sont cool. C'est tout.
L'Internet, c'est cool.
C'est le don de nous.
Ouais, c'est vrai. On est cool ou pas ?
Ouais, mais alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on devrait traiter les gens qui essayent à tout prix de le monétiser, finalement, et d'en faire quelque chose de le...
Mais non, mais après...
Est-ce qu'il faudrait les fouetter
Non, mais après, chacun fait ce qu'il peut pour se démerder dans la vie. Il y en a qui ont peut-être besoin de cet argent à tout prix et qui se disent « Waouh, j'ai un peu de gloire, là, il faut en profiter, quoi. » Mais c'est chaud, c'est chaud.
Justement, par rapport à cette personne, bonjour. Par rapport à cette personne qui était redevable à Internet et qui se sent vraiment en joie tous les jours de poster gratuitement des contenus, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, comme vous, par exemple, si votre ambition première, c'était de parler de l'Internet tel que vous le vouliez, mais maintenant vous êtes en train de dire que ça fait aussi partie de votre carte de visite, que ça vous apporte quelque chose de pas forcément monétisable, mais qui est au-delà de la gratuité et qui n'est plus votre émission, qui est autre chose, pour aller vers autre chose, qui vous apportera de l'argent ou pas.
Ouais, mais tant qu'on change pas le format, tant qu'on se trahit pas en fait et qu'on reste fidèle à la ligne directrice qu'on s'était fixée, à savoir qu'il n'y en avait pas. Non mais enfin voilà, pour moi, enfin ce qui a toujours présidé par rapport à 404 quand on avait des opportunités, c'était justement ça. C'était comment est-ce que on reste nous-mêmes, comment est-ce qu'on s'assure qu'on se fait pas manipuler ou complètement maquer, pour reprendre encore cette métaphore-là, par d'autres médias. C'est pour moi ce qui fait que justement on choisit, on est très prudent sur ce qu'on veut faire. Et tant qu'on n'aura pas cette assurance-là d'être nous-mêmes, même sur un plateau télé, machin, etc. Enfin, on a vu justement, pour côtoyer l'âme, on a vu ce que ça a donné quand il s'est essayé à cet exercice-là. Et pour moi, c'est le cauchemar absolu, quoi.
C'est une vraie démarche, du coup, de vouloir rester gratuit et de vouloir rester indépendant.
En tout cas, de pas retourner notre veste ou juste présenter notre postérieur. Oui, je pense que.
Alors, une autre question.
T'as eu exactement le même discours qu'ils ont fait à Libération il y a 3 mois et tout. C'était trop beau.
Nous sommes un podcast.
Okay.
Bonsoir.
Bonsoir. Moi, j'aimerais parler de ça. En fait, la gratuité, c'est bien parce que on fait ça parce qu'on s'éclate sur le net. C'est-à-dire qu'on va pas faire des projets qui vont être super cool. La base, c'est qu'on le fait parce qu'on aime ça. Tout ce qu'on a gratuitement sur le net, les mecs, ils ont commencé juste parce que ça leur plaisait. Que ce soit Norman à l'époque ou même Cyprien quand il se fait appeler Monsieur Dream, ça les faisait kiffer. C'était leur gros trip. Et ça pourrait pour tout. En tant que développeur, on a plein de projets open source que c'est des mecs qui vont faire sur un week-end, sur une soirée, juste parce que ça les éclate. Bien sûr, ils auraient pu faire payer ça pour une entreprise, ça coûte une fortune, mais non, ça les amuse. Et peut-être qu'un jour, ça leur rendra de l'argent. Mais c'est pas le but premier. Ils vont continuer ça parce que ça les amuse. Pour la même raison qu'on va lire un bon bouquin, pour la même raison qu'on va jouer au tarot ou à rien ou autre chose, on va faire ça parce qu'on s'amuse. Et tant qu'on a envie de continuer parce que ça nous plaît, on va le faire. Si un jour on gagne de l'argent avec, c'est cool. Et je pense
mais
même,
c'est problématique. Enfin,
maintenant,
ça peut devenir.
Le truc, c'est qu'il faut vivre à côté de ça aussi. Et pour ça, on a déjà des réponses. On parle de Basic Income aujourd'hui pour justement rémunérer des gens qui vont juste vivre.
Alors c'est vrai, on parle de vivre de ça ou vivre à côté de ça. C'est vrai que c'est deux démarches très différentes. T'en parles au tout début quand tu nous en parlais 20-20. C'est vrai que c'est très différent de se dire est-ce que je vais vivre d'autres choses et continuer à m'éclater et avoir une vitrine avec par exemple Bonjour America ou le Studio 404 ou est-ce qu'à un moment où effectivement quand tu décides de convertir et de professionnaliser ton projet, c'est là où ça capote, tu penses?
Bah, je pense de ce que j'ai vu, hein, j'ai pas d'exemple qui a marché. Donc en 10 ans.
Mais est-ce qu'on va trouver un jour le truc qui marchera? Enfin, moi, j'aimerais bien que déjà les chaînes elles aient toutes leurs vidéos sur YouTube ou Dailymotion avec le modèle qu'elles trouveront. Mais si déjà les télés faisaient ça,
vous
ça a déjà un peu de télé sur
arrive,
Internet. Quoi.
Vous voulez pas un petit 4-4 de 5 minutes avant de 20h présenté par Laura Merlin?
je voudrais complètement casser le discours angélique de Daz, les valeurs, tout ça, la France, Cocorico.
Il n'y a pas du tout.
Il n'y a pas de qui dit ça.
Studio 404, on a envie que l'émission réussisse, soit diffusée sur des médias honorables. Et on est en train de travailler, et on travaille durement dessus. Et si on est à la Gaîté Lyrique, c'est pas un hasard. On a demandé que ce soit à la Gaîté Lyrique. Eux, ils sont très contents. On est dans des synergies. Et il y a des groupes, on est en relation avec des groupes médias. On a la tête froide. Et moi, personnellement, quand je lance des. On sait où on va. Il n'y a pas de ligne directrice, tout ça.
Et d'ailleurs,
on nous a même dit, et si on change ça, qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, oui, peut-être. Tu vois, donc je veux dire, on n'est pas.
Ah non, moi j'ai dit non.
Ouais, toi, t'as dit non. Mais bon, on est en démocratie.
Oui, bah justement, parlons-en de la démocratie.
Et également, je lance parfois des projets gratuits, et quand je le lance avec d'autres personnes, la première chose que je fais, c'est je leur dis, voilà, si un jour on le monétise, toi t'auras 33%, j'aurai 33%, mais il aura 33%.
Il n'a pas dit ça.
C'est la première chose que je fais.
On aurait dû les lancer sur les projets, avoir des projets au-delà de la télévision quasiment. Hein.
Mais pourquoi d'ailleurs, vous avez changé le titre là maintenant, 404 et vous?
C'est pour les lives.
On est en live.
Parce qu'on s'est dit que avec 404, avec vous, avec
ça
toi.
Ça fait téloche ça, hein.
On l'a joué, mais c'est un virage.
C'est un clin d'œil
au Skyblog. Voilà, en fait, c'était carrément un clin d'œil aux gens qui finissent leur post de Skyblog, c'est pour générer des commentaires genre j'adore Twilight. Et vous?
Ah oui, d'accord.
J'adore Twilight d'ailleurs, mais et toi?
Ouais, j'adore.
Voilà, on crée le truc. Est-ce qu'il y a une dernière intervention de quelqu'un
en plus? Une solution pour la télé.
Personne ici, un habitué derrière toi, Daz? Voilà, 180 micros d'AS. Alors, superbe.
Alors moi, je voudrais rebondir sur l'intervention de mon camarade derrière là.
Oui.
Et en fait, tout le débat sur la gratuité et sur autre chose, c'est le rapport à l'argent. Et il parlait de basic income. Et en fait, c'est comment l'argent conditionne nos vies et nos activités, la façon dans laquelle on vit, parce qu'on doit vivre, on doit payer des loyers, on doit. Et du coup, ça met une espèce de pression. Et ce que j'appelle une insécurité matérielle, qui nous pousse à faire des choix qui sont pas forcément en adéquation avec notre ce qu'on a envie de faire en fait.
Alors ça veut dire que un projet comme Studio 404, c'est une chance. Un hobby de riche.
Oui, enfin, voilà.
Pour s'auto-troller, hein, mais non. Ou une passion.
Oui, c'est une passion et c'est bien d'avoir des passions, mais voilà, mais c'est pas forcément il y a des gens qui peuvent pas avoir de passion parce qu'ils ont pas le temps d'en avoir.
D'accord. Donc ça reste. Est-ce que la gratuité c'est un luxe? Même si du coup c'est la question paraît un peu évidente, mais est-ce que tout le monde peut se permettre de faire ce que tu as fait, par exemple? De se dire, tiens, pendant un an, je vais faire des vidéos de manière gratuite et m'éclater? Ou est-ce qu'on est quand même dans un milieu qui favorise beaucoup la chose?
Non, je pense que tout le monde peut le faire. Quand tu veux vraiment changer de vie, faire un truc, voilà, au lieu de regarder la télé le dimanche matin, tu fais une heure de vidéo, tu le trouves. Je parle tout le monde. Et bien sûr qu'il y a des gens qui, effectivement, préfèrent dormir et qui n'ont pas le temps. Donc, privilégier, je ne sais pas à quel niveau. Parce qu'il y a toujours le temps de faire une vidéo ou un truc. Mais il a raison. Ouais, c'est peut-être un luxe. Je sais pas. Déjà savoir servir d'une caméra, d'avoir internet, d'avoir l'ordinateur, tout ça, on est peut-être déjà
ouais.
Pas dans le. Voilà. Ça me fait rebondir sur juste un truc.
Oui.
C'est de la pub, mais c'est pas pour moi. Vous savez, vous.
Oh non, pas de pub ici.
Non, mais c'est un truc de crowdfunding. C'est marrant le crowdfunding. De temps en temps.
Oh là 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 là. Ah,
merde. C'est un crowdfunding.
J'ai dit une connerie, bah c'est pas grave.
Sujet tendu.
Tu viens de dire Kryptonite à Superman là.
Tu n'as pas vu le reportage qui s'appelle Anaïs s'en va en guerre? Non. C'est une jeune Bretonne qui a 25 ans qui fait l'élevage de plantes, des tisanes. Ça paraît con comme ça, mais ce reportage, il te met les larmes aux yeux d'une nana qui n'a justement aucun moyen. C'est-à-dire qui compte ses centimes d'euros pour faire vivre sa passion. Elle a été interviewée dans ce documentaire que je vous conseille d'aller voir, mais tous, parce que c'est motivant pour la vie entière. Ça s'appelle Anaïs s'en va en guerre. Et la boîte de prod a créé pour elle un Ulule, ce qu'elle connaissait pas.
Hein. Ulule, on rappelle, c'est une société Ulule,
c'est une société comme Kik machin de mes fesses, là. Pour récolter 4000 euros pour devenir propriétaire de son champ. Voilà. On est tellement dans la techno, les trucs, les Norman, les machins, les trucs, que quand je vois cette nana qui a 25 ans, qu'on me disait, je voudrais la rencontrer, lui dire, mais bravo, j'espère que mes enfants auront la même mentalité. Elle est déjà à 2000 euros, c'était il y a deux jours. Voilà, ça s'appelle les tisanes d'Anaïs sur Ulule. Je la connais pas.
C'est pas de la condescendance un peu, ça?
Condescendant, putain.
Filer 4000 balles à quelqu'un qui fait des tisanes.
En tout cas, on peut t'applaudir, Vincent, pour ce troisième débat. On applaudit très fort, Vincent.
Sur la gratuité. Mais en fait, du coup, on a parlé plein de choses, mais qui se recoupaient vachement. C'était
incroyable. T'as réussi à créer une force intellectuelle. Malade.
On n'a pas trouvé la solution, quand même.
Du hive
mind. Trouvé la solution. On va y arriver ensemble.
Non, mais sur la gratuité, en tout cas, on espère que on verra vos petites réactions sur Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se lancer sur plein de petits projets en plus? Est-ce que c'est rentable indirectement ou pas? Est-ce qu'Internet, c'est aussi la culture, comme on dit pas mal de gens dans le public, c'est aussi la culture de la gratuité et une forme de solidarité, presque de romantisme? C'est plutôt intéressant. En tout cas, on prolongera ça sur les réseaux sociaux. Hein, c'est le moment de faire...
Tout à fait. cette émission ressemblait vachement à Internet, moi, j'ai trouvé.
Ouais, tu trouvais que c'est vrai? Pourquoi?
Ouais, je sais pas, c'était très co-construit, il y avait des fanboys, il y avait des trolls, il y avait de tout, c'était cool.
Bah, du coup, on a fait un peu d'internet comme tu voulais.
Non, mais j'aime bien.
C'est un peu freestyle.
C'est rare qu'on puisse s'exprimer même librement comme ça. Ouais.
Merci d'avoir été honnête.
Ah oui?
Ah bah oui.
En tout cas, merci beaucoup. Merci, on peut applaudir nos quatre chroniqueurs, Daz, Sylvain, Mélissa, Fibre. On peut bien sûr applaudir Vinvin qui a fait le plaisir, l'honneur de venir discuter, merci. Débattre avec nous et se frotter parfois à nous. Et on peut aussi, s'il vous plaît, un applaudissement pour toute l'équipe technique. Donc Eric de La Gaieté Lyrique et La Gaieté Lyrique en général, bien sûr. James au cadre et Justin à la réalisation. Merci de nous avoir suivis pour cette toute dernière de la saison de 404. Et vous, on se retrouve sur TF1 à la rentrée, bien sûr. Voilà, ça sera 404 et vous et Samsung, bien sûr, à 20h40.
Voilà, je l'ai dit. Et en tout cas, nous, pour tout le public, merci. On peut vous applaudir, vous, en tout cas, le public. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir été toujours aussi actif, aussi juste et aussi intéressant. Vous restez avec nous, on se retrouve à la buvette. Et nous, on se retrouve très très vite pour un prochain 404 TV. Bye bye, ciao.